Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
15h04 sur RMC. Salut à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est l'Intégral Foot. Avec une star de la Ligue 1 à mes côtés pendant 2 heures, Tony Gaulle, Tony Vérel est là. Salut Tony.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien.
Ah, on va bien, on
est merci pour la star.
Ah, bah, on est content de t'en trouver quand même. T'as fait rêver nombre de ceux qui nous écoutent en ce moment. D'ailleurs, si vous êtes sur la route, soyez prudents, il y a beaucoup de bouchons. On va vous accompagner tout au long de l'après-midi, tout au long de la soirée. Avec cette avant-dernière journée de Ligue 1, ce soir, les 7 matchs à suivre à partir de 21h. Parce qu'on rappelle que vendredi, 2 rencontres se sont déjà disputées un partout entre Brest et Reims. Et Nice a battu le Havre 1-0. Tony, l'événement de la soirée, ce sont les adieux de Mbappé au Parc des Princes, PSG Toulouse ce soir. Le club doit-il prévoir un hommage à Kylian Mbappé ? On en parlera dans un instant avec Arthur Perrault qui est déjà à mes côtés. À 15h25, on parlera de la course à la Ligue des Champions. Est-ce que Brest résistera jusqu'au bout ? Nul, on le disait vendredi soir contre Reims. 3 points d'avance sur Lille qui va à Nantes ce soir. Il y a un vrai enjeu pour les Brestois. On en parlera avec un joueur que tu as forcément croisé sur le terrain. Légende brestoise, Bruno Grougy sera avec nous, Tony. Adjoint d'Éric Roy. Oh, tu l'as affronté forcément.
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que là, si Lille fait un bon résultat ce soir, ils peuvent passer devant, quoi. Donc c'est dur pour eux parce qu'après une saison comme ils ont fait, ça serait un véritable hold-up. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. C'est que jusqu'à la dernière journée, t'es sûr de rien, en fait.
Et ça, on en parlera avec lui. Il y a aussi l'aspect positif, c'est que si Lille se fait accrocher à Nantes, Brest aura quand même un sacré avantage avant la dernière journée la semaine prochaine. On parlera de l'OM bien évidemment à partir de 16h. La Coupe d'Europe est-elle vitale pour Marseille? On retrouvera Florent Germain sur place avec beaucoup d'infos. Le direct, c'est du cyclisme avec la 9e étape du Giro. On fait le point dans un instant avec Johan Bredov. Et puis je vous rappelle que c'est la suite d'une magnifique opération sur RMC. La roue RMC est de retour. Vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros. Elle se compose de 29 segments. Il y a des segments de 100 euros, de 500 euros, de 5 000 euros, de 10 000 euros et 4 segments de 20 000 euros. On aura un auditeur qui sera tiré, qui pourra tenter sa chance grâce à la roue RMC. Il faut être bien attentif durant l'Intégral Foot, durant ces 2 heures, parce que dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Une intervention de Tony, un reporter qui est en train d'expliquer quelque chose, une pub. Restez bien à l'écoute jusqu'à 17h. C'est parti pour l'Intégral Foot League. Et d'ailleurs, on retrouve tout de suite Johan Bredov qui couvre le Giro, la 9e étape justement de ce Tour d'Italie. Encore un peu plus de 90 km à parcourir. Salut Johan.
Salut Benoît, salut à tous. C'est ça, 91,5 km à parcourir. Et deux hommes en tête, Maestri et Pietro Bon, les deux Italiens de la team Poltico Meta, l'équipe d'Ivan Basso et d'Alberto Contador. Voilà, ils montrent le maillot, les deux Italiens. Mais l'avance n'est que d'une minute et 44 secondes sur le peloton emmené par les Alpecines de Caden Groves qui a bien envie de gagner. Ça devrait se jouer entre les sprinters cette étape qui arrivera donc à Naples dans 91 km. Tadej Pogacar, tout de rose vêtu, et bien dans le peloton au chaud. Il n'a pas besoin de faire travailler ses équipiers, ça c'est une journée parfaite pour lui. Attention quand même aux 45 derniers kilomètres de cette étape qui sont assez piégeux. C'est toujours compliqué d'arriver à Naples, donc il pourrait se passer encore des choses. 91 km à parcourir et 1 minute et 46 secondes d'avance pour les deux hommes échappés.
Tony, est-ce que tu es un fan de cyclisme?
Malheureusement non. Après, c'est du sport et je suis tous les sports. Mais c'est vrai que je regardais souvent les dimanches, mais bon, j'ai pas réussi à accrocher dans ce sport. Et puis voilà, j'étais tellement passionné par le foot, faut dire, que tous mes week-ends étaient pris par le foot, que ça soit à l'époque où mon père s'occupait d'une équipe amateur, donc il y avait mes frères qui jouaient, enfin toute la famille était baignée dans le football. Donc c'est vrai qu'il y avait peu de place pour les autres sports, on va dire.
Voilà, le foot a vampirisé la famille Vérel. Voilà.
C'est ça.
Je rappelle juste l'autre événement sportif du week-end, le Grand Prix de France moto. On y était avec Christophe Cessieux. Vous avez suivi la course en intégralité. On rappelle la victoire de Jorge Martin, l'Espagnol leader du championnat du monde. Il devance Marc Marquez. Troisième place pour Pecco Bagnaia. On rappelle que Fabio Quartararo a chuté à 10 tours de l'arrivée. Il y avait 300 000 spectateurs au Mans et c'était un événement magnifique. que vous avez suivi sur RMC. Mais on l'a dit, ce soir, grande soirée de Ligue 1 sur RMC, un multiplex de 7 matchs avec beaucoup d'enjeux, en haut comme en bas du classement, et surtout une soirée d'adieu au Parc des Princes, le dernier match à domicile pour les Parisiens, la dernière de Mbappé sous le maillot du PSG au Parc des Princes. L'annonce officielle a été faite vendredi soir dans une vidéo qui a surpris en interne. On en parle avec Arthur Perrault, le suiveur du PSG pour RMC. Salut Arthur.
Salut Benoît, salut Tony, bonjour à tous.
Alors, salut. C'est le paradoxe de cette situation, c'est que finalement le club est un peu pris de court et pour l'instant il n'y a pas d'hommage particulier de prévu. Quoi.
C'est l'argument,
bah, il savait que ce serait le dernier match de Kylian.
Voilà, mais... C'est l'argument avancé, le fait que cette vidéo ait été publiée il y a donc 48 heures et que enfin, ça laisse 48 heures au Paris Saint-Germain pour mettre en place un hommage. Finalement, ce que nous glisse un proche du club parisien, je le cite, il n'y aura pas de célébration particulière pour l'attaquant. Et l'autre raison qui est avancée, c'est que tout simplement le Paris Saint-Germain veut se concentrer sur les festivités de son 12e titre de champion de France avec ses supporters, avec un show spectaculaire lors de la fameuse remise du trophée organisée par la Ligue de football professionnel, et que donc bien ce soir il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de festivités autour de cette dernière de Kylian Mbappé. Alors évidemment qu'une autre question se pose, est-ce qu'on peut imaginer que le Paris Saint-Germain organisera quelque chose pour Kylian Mbappé plus tard? Ce n'est pas du tout la tendance, même si on nous explique que tout est encore possible et imaginable. La chose par contre que l'on peut affirmer sur cette soirée, c'est que le collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters, a lui prévu depuis de longues semaines un tifo avec vraisemblablement le visage de Kylian Mbappé en grand qui sera déployé au début de cette rencontre.
Arthur, question simple, est-ce qu'on est sûr que Nasser Al Khelaifi sera présent au Parc des Princes ce soir?
Oui, je peux te l'affirmer.
Donc ça veut dire que sur la cérémonie du titre, les deux hommes vont forcément se croiser.
Alors... oui, alors je vais vous rappeler un peu comment ça s'est passé les années précédentes, et je suis sûr que tu t'en souviens, Benoît, et aussi Tony. Il y a de cela 2 ans, les joueurs étaient appelés un par un. Oui. Souvenez-vous, au moment de cette cérémonie des trophées.
Moi, je me souviens de la gêne de Christophe Galtier.
Voilà, exactement. Dernière. Sauf que si vous vous souvenez bien, l'année dernière, ça a changé. Les joueurs étaient appelés par groupe. C'était des petits groupes de 3, de 4. Et même à la fin, on s'est dit, bon, allez, on va appeler tout le monde d'un coup, comme ça, on va plus s'embêter.
Allez, venez tous les autres.
Voilà. Et vraisemblablement, on va rester sur cette idée-là. Donc, c'est-à-dire que, on va en parler dans quelques instants, mais si vous appelez 4 joueurs d'un coup, forcément que s'il y a des sifflets ou si, voilà, il y a des supporters qui font part de leur mécontentement concernant un joueur en particulier, forcément qu'on y prêtera moins d'attention que si c'est un joueur qui est appelé à un moment précis.
Voilà. Pour noyer un petit peu,
exactement,
je pense.
Exactement. Alors, exactement.
Ça serait fou d'avoir Mbappé qui n'est pas appelé individuellement quand même. Pour son dernier match au Parc des Princes.
On ne peut pas le garantir. Encore une fois, la tendance est à ce que ce soit vraiment des appels groupés et que les joueurs arrivent en groupe sur le podium de la Ligue de football professionnel.
Tony, est-ce que pour toi, le PSG doit prévoir un hommage pour Mbappé ce soir?
Ben oui, moi je pense que ça serait vraiment dommage qu'il parte de ce club où il a fait quand même des choses extraordinaires. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kylian, je veux dire, il a fait des choses quand même pour le club qui restent fabuleuses et il a été présent dans des moments importants. Alors on aurait voulu tous qu'il amène cette équipe bien plus loin en Ligue des Champions, mais c'est comme ça. D'autres joueurs n'ont pas réussi avant lui, qui étaient des top joueurs aussi. Donc il faut pas tout remettre en question sur une demi-finale ou sur après il y a peut-être des conflits en interne justement entre lui et peut-être le président. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y aura pas de célébration, mais ça serait dommage, je trouve. Moi, vous voyez, je veux pas recentrer les débats sur moi, mais ma modeste expérience, j'ai pas pu faire mes adieux au public lensois quand je suis parti, parce qu'à l'époque on était en pleine campagne de réabonnement et on m'avait dit, écoute, si tu peux éviter de le dire trop vite et attendre.
C'est intéressant ça.
Donc moi j'ai pas pu le dire, et je peux vous dire que ça reste vraiment un énorme regret pour moi de pas avoir pu dire au revoir à mon public, à un public que j'aimais tant et que j'aime toujours autant d'ailleurs, mais et on m'a reproché, t'as pas pu faire tes adieux, tu nous as pas dit au revoir, t'es parti sans vraiment dire au revoir. Et je trouve que ça serait dommage pour un joueur comme Kylian qui puisse pas dire au revoir à son public, parce que on peut pas reprocher on peut reprocher des attitudes, des excès de caprice, on va dire, mais parce qu'on lui a donné des choses aussi, et à l'arrivée, si on ne lui dit pas au revoir, si son public ne peut pas lui dire au revoir, je trouve que c'est regrettable.
Après,
peu importe les conflits qu'il y a en interne.
On parle de ça parce que depuis la vidéo d'annonce de Mbappé, parce que tout le monde savait qu'il partirait, mais là il l'a officialisé vendredi soir, il n'y a eu aucune communication officielle du club sur ses réseaux sociaux. La seule réaction d'ailleurs, Arthur, on peut peut-être l'écouter, c'est Luis Enrique qui lui était contraint et forcé parce qu'il s'est présenté en conférence de presse d'avant-match. Justement, la réponse de Luis Enrique sur sa relation avec Mbappé et sur le départ de la star de l'équipe de France.
Malgré le fait qu'on ait voulu souvent nous affronter et que même Kylian a démenti publiquement les choses, et vous savez qu'il ne parle pas tellement dans les médias, moi je ne peux dire que des choses merveilleuses sur lui. Son frère est un pareil, je peux comprendre et je comprends sa décision. Il a passé 7 ans ici, c'est une légende du club, c'est un joueur qui a tout donné pour ce club et c'est un club qui lui a tout donné aussi. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir, il n'a pas encore dit où il allait, même si on pense que c'est déjà clair. Sur aucun plan je ne me plains de Kylian. Ça a été une grande fierté, un grand plaisir de le voir dans l'équipe. Il a aidé l'équipe, c'est un leader et c'est même un leader avec un sourire. Et c'est comme ça que je le définis. Le PSG continuera d'être une grande équipe et nous voulons être encore plus grands. Nous voulons recruter des joueurs qui aient une mentalité de fin totale, des joueurs qui s'identifient au club et qui veuillent apporter leur grain de sable. C'est comme ça que fonctionne la vie. Je suis très fier, je le répète, d'avoir vécu cette année avec Kylian Mbappé.
La réaction plutôt classe, d'ailleurs, Arthur et Tony de Luis Enrique.
Contraint et forcé, je sais pas, mais.
Vous pouvez pas faire autrement.
T'es obligé de répondre à la question.
Après, c'est, je pense, le bon timing parce que, d'abord, il fallait qu'il clarifie certaines choses sur sa relation. Il en a profité pour le faire. Et puis, bon, Kylian Mbappé n'a pas parlé dans cette vidéo de Nasser El Khelaifi. Voilà, c'est quelque chose qui a fait grand bruit. Il fallait, je pense aussi, qu'il y ait un petit contre-feu et que Enrique enfin s'exprime sur la situation avec Kylian Mbappé, lui qui jusque-là se réfugiait derrière le fait que le club n'ait pas communiqué officiellement et que ce n'était pas encore à lui de prendre la parole. Voilà.
Qu'est-ce que tu sais en interne, toi, Arthur, de la relation justement Kylian Mbappé, le clan Mbappé, comme on l'appelle régulièrement, et Nasser Al Khelaifi, la direction du club? Ça veut dire que depuis la mi-février, depuis qu'on sait que Mbappé s'en va, il n'y a plus aucun contact entre les deux parties?
Plus aucun, c'est peut-être radical de dire ça comme ça. Il y en a, mais on va dire qu'ils sont très froids. Et encore ces dernières heures, sans tout vous dévoiler, mais même autour de ce sujet de célébration ou non pour la dernière de Kylian Mbappé, les échanges sont très tendus, très froids. Voilà, et je vais vous rappeler la petite scène du début de semaine avant le match de la demi-finale retour face à Dortmund. Le président Nasser Al Khelaifi était présent au campus au moment où les joueurs font tous leur arrivée sur la pelouse d'entraînement, et puis il y a un seul joueur qui n'a pas dit bonjour au président parisien, c'est Kylian Mbappé, alors qu'il y avait les caméras du monde entier, que c'est une affiche européenne, qui plus est une demi-finale, et que tu es observé par la planète football.
Ouais. Quand volontairement tu ne saluis pas le président, tu sais que ça se saura.
C'est-à-dire que tu assumes aux yeux,
ça passera pas,
tu assumes aux yeux du monde entier que ta relation avec ton président n'est pas bonne. Voilà, et on l'a vu dans la vidéo. Il cite les intendants, il cite ceux qui s'occupent de tout, de l'organisation, des terrains, ses anciens directeurs sportifs, ses anciens coéquipiers, ses anciens coachs. Et il oublie une seule personne. Voilà.
Mais en fait, c'est ça qui est criard dans sa vidéo, c'est qu'en fait, il remercie tellement de monde qu'il ne peut pas avoir oublié involontairement.
Bien sûr.
Nasser.
Après, donc oui, c'est calculé, bien
mais
sûr.
Mais après, Tony, tu as vécu ça, enfin, tu es un ancien joueur. Quand tu es placé à l'écart, comme Kylian Mbappé l'a été l'été dernier, on sait qu'il n'a pas digéré cela, à encaisser et à pardonner derrière, alors on sait qu'il est un peu de nature rancunière, mais de là à oublier son président, je sais pas.
Vu tout ce qu'il t'a donné aussi, enfin, c'est
le paradoxe. Hein. Il a beaucoup reçu du président Nasser Al Khelaifi, mais il a aussi beaucoup perdu.
Mais moi, vous savez, pour moi, le gros problème, c'est pas Kylian. Je veux dire, maintenant, je suis le premier à dire que sur certains aspects de son comportement, je cautionne pas. Maintenant, le gros problème, c'est qu'on lui a tellement donné. On a tellement voulu le mettre dans un confort, on lui a certainement demandé qui veux-tu pour l'année prochaine autour de toi. Je veux dire, ça c'est moi je l'ai vécu. Alors je parle encore une fois de mon expérience.
Non, mais c'est bien de bénéficier de ton expérience quand même.
Oui, voilà, parce que justement moi j'ai été à un moment donné dans ma carrière. Dans une situation hyper favorable pour moi, on venait d'être champion, on gagne la Coupe de la Ligue. À la sortie de cette année-là, j'ai beaucoup de clubs européens qui sont intéressés, et moi, je voulais rester en France. Et donc, j'avais Paris, Saint-Germain et Lyon. Et on te donne tout quand tu as deux gros clubs comme ça sur toi qui sont capables de te donner beaucoup d'argent. Donc tu en perds un petit peu la notion de ce qui est important vraiment. Moi, le sportif, c'était important. J'ai jamais négocié quelque chose, par exemple, sur le sportif, le nombre de buts, une prime au nombre de matchs ou ci ou ça. Pour moi, ça, c'était mon job. Mais par contre, après, quand on te dit, quand on te propose, bah peut-être d'avoir des places en loge pour ta famille, tout ça, bah qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui. En fait, à tout ce que tu demandes, on te dit oui. Donc à un moment donné, tu perds un petit peu
le rapport d'autorité est différent quoi après.
Exactement, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné Kylian était presque plus puissant aux yeux de même de ses camarades du groupe, parce que là où tu perds un petit peu la chose qui fait qu'on a envie de jouer pour toi sur le terrain, si tu veux, tes coéquipiers, ils ont envie de te soutenir, ils ont envie d'aller avec toi. C'est quand on croit en toi à un moment donné, quand on a l'impression que c'est toi qui fais tout, que c'est toi qui décides de tout, à un moment donné, tes coéquipiers disent vas-y, fais tout seul, puisque c'est toi qui. Donc à un moment donné, tu vois, et ça involontairement dans chaque esprit. Moi, à la fin de la première année à Lyon, ça s'était très bien passé. Jean-Michel Aulas et le directeur sportif de l'époque me disent, mais qu'est-ce que tu vois dans le recrutement vu ta bonne première saison? Est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur le recrutement et tout? Et chose que j'aurais jamais dû faire, j'ai donné quelques noms comme ça.
Aïe, et t'as donné quoi comme nom?
Mais à l'époque, si tu veux, je veux pas rentrer dans les détails, il y avait, j'étais très ami avec Lionel Letizy. Si tu veux, je savais qu'il partait de Metz. Je savais qu'il cherchait un gardien pour être à la hauteur de Grégory Coupet. Donc j'ai donné un nom, j'ai donné Lionel Letizy. Et si tu veux, à l'époque, Jacques Santini était très pote. Je savais pas, mais bon, c'était vraiment deux super potes. Et je pense que ça m'a créé des problèmes par la suite. D'accord. Alors qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Moi, c'était vraiment.
Toi, tu l'as fait par honnêteté, sincérité, et ça s'est retourné contre
voilà,
toi.
Voilà. Et pourtant, j'étais pote aussi avec Angelo Huy, qui était le deuxième gardien, mais je savais qu'il pouvait peut-être être en partance. Donc moi, j'ai proposé non. Et après, l'année suivante, Jacques Santini reprend l'équipe en tant qu'entraîneur, et je pense qu'il a dû en parler à Greg, et peut-être que ça a créé des animosités qui aurait jamais dû avoir.
Okay.
C'est pas le genre de choses qu'on doit dire. Tu peux parler de certains sujets, dire moi par exemple en tant qu'attaquant, qui est-ce que tu verrais bien comme passeur, enfin comme numéro 10, tout ça. Tu peux discuter de ce genre de choses, mais ça peut te porter préjudice sur la suite.
Tiens, Tony, dans un instant, on accueille deux supporters parisiens qui veulent discuter avec nous, Pierre et Mustapha. Auparavant, c'est le rendez-vous du dimanche après-midi, le Quintet à Longchamp. Il vient de se terminer. Fred Kita, est-ce que tu peux nous donner le résultat? Salut Fred.
Oui, salut Benoît, salut à tous. Effectivement, le Quintet vient de se dérouler sur l'hippodrome de Longchamp et c'est le numéro 13, Angto, qui s'est imposé à 8,50€ devant le numéro 4, Dalmandi, la troisième place pour le 2, Lorcan, la quatrième position pour le numéro 6, My Fancy, la cinquième place pardon, pour le numéro 9, Népalais. Je récapitule l'arrivée provisoire du quintet en chiffres 13, 4, 2, 6 et 9.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h22 sur RMC, vous écoutez l'intégrale foot. On est avec Tony Vérel, avec Arthur Perrault. On parle du PSG et de la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot parisien au Parc des Princes. Le club doit-il lui prévoir un hommage? Accueillons Pierre qui a composé le 32-16. Salut Pierre.
Bonjour à tous.
Pierre, est-ce que le club doit rendre hommage à Mbappé ce soir pour toi?
Moi, par rapport au dernier mois, je pense qu'il n'y a pas d'hommage à rendre à Kylian Mbappé.
Et pourquoi?
Il a un manque de respect envers les supporters, je trouve. Après, moi, je suis supporter du PSG, bon, j'ai que 40 ans, mais depuis longtemps, moi, c'est plutôt l'époque Pochettino, Enzo, Cristobal, après même des plus petits joueurs, Corizon, Madar et tout.
Roten.
Ouais, Roten, c'était un peu plus après, moi, c'était un peu avant.
Et t'as dégoûté du PSG, Roten, du coup.
Pardon ?
Il t'a dégoûté du PSG, Roten.
Non.
Je plaisante pour le
journal. Il se battait quand même sur le terrain. Non, mais après, je prends un petit hommage. J'aurais pu aller un maillot dans un cadre avec le nombre de matchs sous le maillot du PSG. Et ça suffit. Après, je pense que les supporters vont lui rendre quand même un hommage. Il n'y a pas besoin de faire une grande fête. Hein.
Ouais, Pierre.
En tout cas, tu as un bel accent. Hein.
Ah oui, supporter corse du PSG.
C'est ça.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est ça. Bah voilà. Et j'ai quand même Tony Vérel, je me souviens encore de son but en demi-finale de Coupe de France à Bastia contre Sedan. Je sais pas si tu t'en souviens, j'étais en tribune sud à l'époque, la tribune sud était encore en bois. Donc j'avais
vu incroyable. Tu sais que ça reste mon plus grand regret de ma carrière, c'est de ne pas avoir gagné cette finale de Coupe de France avec Bastia, parce que ça aurait été vraiment.
Parce que le coach à l'époque, il avait pas fait jouer Benefort en finale, il avait pas fait jouer sur le corps de
c'est ça.
Alors, on en est là. On repart sur les débats.
T'as tout compris.
Avec le Sporting.
Ouais, désolé. Non, mais voilà. Après, moi, vous savez, je vais aller encore plus loin. Par rapport au PSG, là, à l'instant T, j'ai aucun but de Mbappé qui me reste en tête. Alors que j'ai des buts de Paoletta, j'ai des buts de Pastore, j'ai encore le but de N'Gotti en finale. Mais
est-ce que c'est pas parce qu'il en a mis trop ? Parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, il a fait 7 saisons, c'est le capitaine de l'équipe de France.
Peut-être,
et pourtant,
mais au niveau de l'amour du sport,
c'est sûr.
Moi, attention, c'est un joueur extraordinaire, il n'y a rien à dire. Mais au niveau amour du football, il manque un petit truc.
C'est un sentiment qui revient régulièrement. On avait fait le débat d'ailleurs hier soir dans Stephen Time sur RMC avec Stephen Brun et Pierre Dorian, qui est un grand fan du PSG aussi. Et c'est un peu ce qu'il disait, c'est que l'émotion, ça ne se calcule pas. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est-à-dire
voilà,
tu peux
il
pas
manque un petit truc.
Prévoir
manque,
une émotion.
Après, c'est dur de gagner avec des champions. C'est sûr que s'il avait gagné la Ligue des Champions ou même une autre Coupe d'Europe, on aurait dit ça aurait été le meilleur joueur du PSG. Bon. Voilà, il manque ce petit truc en plus. C'est dommage.
Merci Pierre, en tout cas, d'avoir participé au 32-16. À bientôt.
Salut
et puis,
Pierre.
J'espère qu'il fait beau en Corse, hein, en tout cas.
Je suis à la plage, là, avec ma copine, ma compagne.
Magnifique.
Voilà.
Et bah, profitez bien. Merci Pierre, à bientôt sur RMC. Autre supporter parisien, Moustapha, qui nous rejoint. Salut Moustapha.
Salut l'équipe, salut l'intégral, comment ça va?
Bon, bah, ça va et toi?
Salut Arthur.
Est-ce que tu vas au parc ce soir,
Moustapha? Oui, non, ce soir, malheureusement, je pourrais pas y être pour la simple bonne raison que j'étais à l'antenne avec Oussem et toute l'équipe. Lors de la demi-retour, et j'avais annoncé en direct que j'allais directement à l'hôpital pour récupérer le petit. Et ben, vous savez quoi, vous leur donnerez l'info, les gars, que le petit est là, et malheureusement, je pourrais pas être au parc ce soir.
Ah, magnifique! Bah, félicitations! Ben, voilà. Comment il s'appelle alors?
On l'appelait Jed.
Et ben voilà, magnifique.
J'ai pas menti sur le plateau, on a plégé. Merci tout le monde. Bonjour Tony.
Eh ben voilà.
Salut Moustapha.
Magnifique.
Salut,
oui, donc moi je suis l'expérience de Tony là qui vient de nous partager, elle est juste fabuleuse. Le but en demi-finale en Coupe de France contre Sedan, j'en parle même pas. C'est extraordinaire. par contre, je suis en totale contradiction avec Pierre que je salue s'agissant
du précédent,
Kylian. Ouais. On a Kylian les gars. On parle pas de Pastore justement, on parle pas de Verratti. On a la crème de la crème. C'est le capitaine de l'EDF. On a l'euro qui arrive, il a juste passé 7 ans. Moi je suis désolé les gars, mais c'est humain. Hein. Demain, peu importe la personne, à un moment donné, la carrière, c'est la carrière, c'est un titi parisien. C'est un bon dinois, c'est un pur PJ, c'est un pur produit français, c'est un pur produit de la capitale. Maintenant, il faut lui rendre hommage, lui citer bon courage pour la suite. Il peut signer au Real, il peut signer au Barça, il peut signer à City, il peut signer où il veut le bonhomme. Hein. Comment vous voulez qu'il puisse lui en vouloir, hein? Il a passé 7 formidables années, il a mis des buts en veux-tu, en voilà, on sait même plus lequel a enregistré. Désigné. Maintenant, sur la fin, sur les 6 derniers mois, ça reste un être humain, c'est-à-dire qu'il est fait tiers et d'eau et de sang, il performe à chaque fois. Maintenant, voilà, l'erreur est humaine, hein, de l'expression d'erreur est humaine. On ne dit pas que l'erreur est robotisée, elle est humaine, même si le robot c'est lui qui l'a construit. Maintenant, voilà, il a 25 ans, il a encore pas mal de trophées à aller chercher. Le rêve de tout attaquant, il me semble que c'est le Ballon d'Or. Je ne suis pas certain qu'en restant PSG, il pense soulever le Ballon d'Or dans les années qui suivent. Et les années passent vite, il est dans son confort. Donc moi je suis désolé, il faut lui rendre un grand hommage et il faut lui dire un grand merci parce que ça reste le meilleur et de loin joueur que le club ait pu avoir. On est sur une nouvelle dynamique depuis QSI, depuis l'arrivée de QSI, et c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on construit un club. C'est pas en gardant un joueur jusqu'à sa retraite et dire bon on a plus de Kylian, qu'est-ce qu'on fait?
Exactement.
Non, Kylian a donné l'exemple, il doit partir.
Mais c'est peut-être Moustapha, c'est peut-être le regret des supporters de pas l'avoir vu partir il y a un an, voire il y a deux ans, Kylian Mbappé. Peut-être qu'on lui en aurait moins voulu de partir plus tôt, quand l'histoire était encore belle, plutôt qu'avec toutes ces histoires, tout ce cirque médiatique et c'est moi à se dire est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas. Merci Moustapha d'avoir participé au débat. On embrasse ton petit une nouvelle fois. T'as vu, on est passé de la maternité à la plage Corse. C'est pas beau ça.
C'est pas.
Bon, merci Moustapha.
À bientôt.
À bientôt. Et merci Arthur Perrault. Juste un mot, parce qu'il y a deux autres moments attendus.
Oui.
Les adieux de Keylor Navas, qui lui aussi s'en va. Et Michel Montana, le speaker légendaire du Parc des Princes,
depuis
qui fait ses adieux ce soir.
1998, ouais, exactement. Speaker historique du Paris Saint-Germain, qui va prendre sa retraite. Ouais. Dernier match à domicile pour lui. On connaît pas encore l'identité de son remplaçant. Le PSG est en train de chercher l'heureux élu. Et voilà, il y a plusieurs profils qui sont déjà pistés. Mais voilà, c'est aussi un bel hommage qui sera rendu ce soir.
Une vraie personnalité du PSG qui s'en va.
Une voix, surtout.
Exactement.
Une voix.
Merci Arthur. Bon match ce soir.
Hein,
avec tout ce qui va se passer, toutes les scènes à scruter. Tony, tu restes là dans un instant. On parle
avec
de
plaisir.
La course à la Ligue des Champions. Et on parle du Stade Brestois accroché vendredi soir. Mais Brest qui, pour l'instant, peut encore rêver du podium de Ligue 1. On sera avec Bruno Grougy, un joueur emblématique du Stade Brestois. Tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
L'intégral foot jusqu'à 17h sur RMC. Tony Gaulle avec moi, donc pendant cette heure et demie qui nous reste, Tony Vérel, pour parler justement de cette avant-dernière journée de Ligue 1 qui se poursuit ce soir. Il y a eu deux matchs vendredi, il y en aura sept ce soir à partir de 21h, une grande soirée de foot sur RMC. Donc restez bien avec nous tout au long de l'après-midi. Tony, dans un quart d'heure, on parlera un peu de Ligue 2, tiens, parce que c'est l'autre événement foot de cette fin de saison. Tu as suivi le duel à distance entre Saint-Etienne et Angers.
Bien sûr.
Pour accompagner Auxerre. De retour. Ouais, t'as connu ça.
J'ai bien connu la Ligue 2.
Et oui, t'as connu ces moments-là, notamment à Nancy.
C'est battu au couteau.
À l'époque, c'est vrai que c'est assez délicat. Et bien, pour l'instant, c'est Angers qui a l'avantage. On en parlera avec un ancien joueur du PSG, un ancien consultant RMC Sport, Jean-Michel Badiane, qui est adjoint aujourd'hui à Angers. On parlera justement de cette dernière journée qui les attend vendredi. Mais tout de suite, on parle donc de la course à la Ligue des Champions. Avant d'accueillir Xavier Grimaud et Bruno Grougy, un petit détour par notre direct tout de même. Le Tour d'Italie en vélo, la 9e étape du Giro, l'arrivée à Naples aujourd'hui, Johan Bredov.
C'est ça, et c'est très tranquille hein, pour l'instant. 70 km encore à parcourir. La même situation de course avec Maestri et Pietrobon qui font leur petit bonhomme de chemin, qui ouvre la route avec 1 minute 45 secondes d'avance sur le peloton où tous les favoris sont là, que ce soit pour l'étape avec les sprinteurs ou que ce soit pour le général avec notamment Tadej Pogacar, tout de rose vêtu. 1 minute 45 secondes d'avance donc pour ces deux hommes. Il reste presque 70 km à peu près.
15h36 sur RMC, la course à la Ligue des Champions. Je rappelle l'état du classement. Le PSG champion avec 70 points. Deuxième, Monaco, 61 points. Un point suffit à Monaco sur les deux dernières journées pour assurer la deuxième place. Brest s'accroche à cette troisième place pour l'instant, Tony. 58 points pour les Brestois qui ont concédé le nul face à Reims vendredi. Un but partout. Lille est à l'affût, quatrième. Les Lillois avec 3 points de retard sur Brest, mais un match en moins à disputer ce soir sur la pelouse du FC Nantes. On va en parler avec Xavier Grimaud, notre correspondant dans l'Ouest. Salut Xavier.
Salut Benoît. Salut Tony.
Et
salut
avec
à tous.
Salut.
Un autre joueur emblématique de la Ligue 1, les années Tony Vérel. Bruno Grougy en direct avec nous. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Bienvenue Bruno.
Bonjour,
ah
Bruno.
Ouais, Grougy-Vérel, ça a dû s'affronter quelques fois Bruno, hein. C'est sûr. Hein.
Un petit peu, mais je pense que Tony a beaucoup plus de matchs que moi en Ligue 1, donc on ne s'est pas beaucoup croisé sur les terrains.
Oh oui, mais bon, je sais ce que c'est de fouler, d'avoir la chance de jouer déjà au haut niveau, et je peux dire que Ligue 1, Ligue 2, pour moi, c'est voilà, même si la Ligue 1, ça reste le summum, mais ça demande les mêmes efforts en Ligue 1 et même jusqu'en National. Je peux te dire que je tire mon chapeau à tous les joueurs.
c'est sûr. Bruno, d'ailleurs, bah, on peut démarrer comme ça, avant de parler de l'actu pure de la fin de championnat, de cette course à la Ligue des Champions. Quelle histoire pour toi tout de même, tu es adjoint d'Éric Roy, tu es peut-être le joueur le plus emblématique de l'histoire du Stade Brestois, ça on le confirmera avec Xavier. Xavier, tu me confirmes que oui, Bruno Grougy, c'est quand même peut-être la légende de Brest.
Ah, c'est, en tout cas, il fait partie des légendes, on va peut-être pas le mettre directement dans la statue, parce, en statue, parce qu'il y en a, quand même d'autres des années Brest-Armorique aussi, qui reviennent dans le cœur des supporters, mais de l'histoire récente de Brest, je pense que Bruno, tu es numéro 1 dans le cœur des supporters, et tu le sais, même si tu es modeste, effectivement. 307 matchs, hein, Bruno, avec Brest entre 2009 et 2017.
Bah voilà, c'est énorme.
Avec cette coupe de cheveux mythique, Bruno, tout de même. C'est comme ça qu'on le reconnaissait.
On a tous voulu la même.
On y revient.
Non, pas du tout. Non, mais Bruno, bah, raconte-nous ton émotion à toi, ton émotion particulière à la suite de cette saison. Parce que pour toi qui, tu l'as dit, a connu la Ligue 1, la Ligue 2, les saisons un peu galères, voir ton club, le club de ton cœur, aussi haut au classement, qui va disputer, quoi qu'il arrive, une Coupe d'Europe, et peut-être encore en lice pour la Ligue des Champions, ça doit être une émotion indescriptible.
Ah, c'est une émotion très forte. Je peux te dire que, comme tu l'as dit, tout n'a pas été rose depuis que je suis arrivé au club. J'ai connu des saisons très compliquées où la pression était autre. Et là, de voir le club en Coupe d'Europe, je peux te dire que c'est déjà une très grosse fierté. Et puis, parce que forcément, on travaille tous les jours pour essayer d'obtenir le meilleur, mais on ne l'obtient pas tous les ans. Et là, cette année, je peux te dire que ouais, c'est une sensation, c'est une émotion très, très forte. Lorsqu'on a réussi à obtenir ce fameux billet, en plus, chez nos amis Rennais, je peux te dire que le soir, ça a été vraiment des émotions très fortes.
C'est sûr. Alors, on est partagé au niveau des émotions parce qu'il y a l'euphorie de savoir qu'on sera européen. Il y a toujours ce rêve de Ligue des Champions. Et toujours, pour l'instant, à l'heure où on se parle, cette position favorable. Vous êtes toujours deuxième de Ligue 1 avec troisième de Ligue 1, pardon, avec 3 points d'avance sur Lille qui joue ce soir à Nantes. Bruno, déjà, comment vous allez regarder ce match? Est-ce que tu vas être tendu? Est-ce que tu vas te ronger les ongles devant le multiplex ce soir?
Alors, ça serait mentir de te dire que je ne vais pas regarder. Je vais regarder très attentivement. Ouais. Et puis, en plus de ça, au-delà du résultat, forcément, j'ai pas mal d'amis à Nantes, donc je vais être nantais ce soir.
Ah, voilà, au moins c'est clair. Au moins c'est clair.
À fond derrière Nantes, allez. Ouais.
Exactement.
Tony, dis-nous un mot de comment tu vis justement cette aventure brestoise cette saison. C'est quand même la révélation de la saison. Ce que sont en train de réaliser les Brestois, c'est fantastique.
Bien sûr, c'est fabuleux et c'est comme nous à notre époque quand on a réussi à gagner le titre avec Lens, c'est quand personne t'attend et que tu es là, que tu es présent. En plus, on peut pas dire que il n'ait pas été là dès le début. Je veux dire, ils se sont installés dans les premières places dès le début de l'année et ils l'ont plus quitté quoi. Et tout le monde était unanime pour dire ils tiendront pas, et ils sont là aujourd'hui, toujours en place, troisième du classement, derrière quand même le Paris Saint-Germain. Je veux dire, c'est extraordinaire quoi. Je veux dire, deux grosses locomotives comme PSG et Monaco, le budget, ça doit pas être les mêmes, je pense.
Pas vraiment.
Donc franchement, c'est énorme. Et moi, j'aime ce genre de situation où justement un club qui n'est pas prétendu finir dans les premiers se retrouve là et on connaît peut-être un peu moins les joueurs, mais justement c'est là qu'on voit que c'est pas toujours les noms qui font les trophées quoi, je veux dire, et qui font les belles saisons quoi. Et ça, c'est extraordinaire pour moi.
Xavier, toi, tu étais au commentaire vendredi du dernier match à Leblay de la saison. Ouais. D'ailleurs, on a eu un fantastique feu d'artifice à l'issue de cette rencontre face à Reims. Score final un partout. Les Brestois ont été menés. Ils ont su une nouvelle fois revenir au score. On sent malgré tout, Xavier, on pourra le confirmer avec Bruno, mais un peu de fatigue, forcément, chez les joueurs. Et puis là, il y avait deux joueurs de talent qui étaient absents. Donc, c'est encore plus dur, quoi.
Bah c'est ça, on pourrait presque dire qu'il est peut-être temps, Bruno, que la saison s'arrête, parce que ça a l'air de tirer peut-être mentalement et puis aussi physiquement. Pendant très longtemps, vous avez été l'équipe qui avait eu le moins de blessures en Ligue 1. Il y avait moins de 3 joueurs indisponibles, blessures, suspendues. Donc ce qui montrait aussi que niveau de la charge de travail, du staff médical, enfin voilà, il y a du bon boulot. Mais là, voilà, il y a Pierre Lesmelou qui était pas là, Romain Del Castillo qui était pas là, donc les leaders techniques. Est-ce que tu sens aussi, peut-être même au niveau du staff aussi, hein, une usure mentale et physique, parce que vous cravaché depuis le début dans des sphères où vous n'êtes pas censé être normalement?
Ouais, exactement, tu l'as dit. C'est pour beaucoup de joueurs de l'effectif, c'est nouveau, cette, on va dire, cette pression, on va dire, du résultat, du médiatique. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il est peut-être temps que la saison arrive, que ça soit physique, mais surtout sur la charge mentale, parce que nous, on n'était pas du tout programmés à aller jouer ses premières places. Et puis, au fur et à mesure que le championnat avance, bah, forcément, on se prend au jeu. Et comme je te dis, là, on est en train de regarder les résultats des autres, alors que normalement, le match est acquis, on devrait être complètement soulagé. Et là, non, il y a une autre pression qui est arrivée. Et sur ces derniers matchs, ça s'est senti au-delà de l'aspect physique où il nous manque un peu de fraîcheur. Et il nous manque surtout aussi de la fraîcheur mentale, parce que c'est vrai que, quelque part, cette pression et cette envie d'aller chercher cette Ligue des Champions, ça pèse dans les têtes, ça pèse sur les joueurs.
Bruno Grougy,
Bruno d'ailleurs, en direct Benoît, avec nous sur RMC, les joueurs ont avoué, Bruno, après la victoire à Rennes, qu'ils pensaient à l'Europe dès la reprise de janvier. Alors, ils se sont bien gardés de nous le dire, évidemment. Mais vous, au niveau du staff, est-ce que vous aussi, vous êtes dit, au vu de nos prestations, même face aux gros, on répond présent, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Est-ce que vous aussi, vous y avez pensé sans le dire?
Alors, nous, on y a pensé, mais on a toujours eu le même discours, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment pas qu'ils se mettent ça en tête, même si ça reste des compétiteurs, et forcément, eux, entre eux, ils ont parlé, et puis même individuellement, c'est ce qu'ils cherchaient à aller trouver. Nous, on a vraiment eu le même discours, parce que justement, encore aujourd'hui, on veut surtout pas qu'ils mettent le résultat en amont. On pense qu'avec des bonnes prestations, des prestations avec du contenu, comme on a toujours fait, le résultat viendra naturellement et on veut surtout pas qu'ils pensent avant tout au résultat. C'est ce qui fait un peu défaut ces derniers temps, sur les derniers matchs, notamment les deux à domicile, où je pense que les gars ont cherché à tout prix à aller chercher le résultat avant d'y mettre la manière. Et malheureusement, ça on peut pas leur enlever, hormis de rabâcher les mêmes discours. Mais bon, ça reste humain et ça on peut pas leur en vouloir là-dessus.
Bruno, dans un instant, on va faire un plaisir à un supporter brestois qui nous attend en 32-16, c'est Michael, voilà, qui est ravi de t'entendre parce qu'il supportait le Stade brestois même lorsque tu étais joueur. Mais question simple, toi tu vis tout ça de l'intérieur, toute cette saison fantastique, c'est quoi le secret de Brest? Pourquoi, comment tu expliques cette façon de surperformer? C'est une alchimie parfaite dans le groupe, c'est un coach qui se sublime, c'est un peu de réussite aussi. Quel est le secret de la réussite de Brest cette saison pour toi?
Alors, pour moi, la plus grosse réussite, elle a été notre directeur sportif, c'est d'arriver à recruter et à faire un groupe avec des super mecs, des bons mecs qui ont une mentalité de travail, un état d'esprit irréprochable. Et ça, c'est la première réussite pour moi. Après, forcément, comme tu dis, c'est une alchimie, c'est un petit peu de réussite quand ça va bien, le calendrier qui nous va bien, et puis beaucoup de travail, d'humilité, et ça c'est la réussite vraiment du Stade Brestois.
Il n'y a pas de secret, il y a forcément du travail, Tony, lorsqu'on voit les résultats de Brest, même si il y a de la réussite aussi, c'est que forcément ça bosse bien.
Mais ça fait partie du jeu. De toute manière, il y a des saisons comme ça où tout vous réussit plus qu'une autre saison et on en a tous connu dans notre carrière, des saisons où rien ne veut aller. Donc c'est sûr que ça fait partie, mais le travail, comme il dit, la bonne ambiance qu'on peut retrouver dans un vestiaire, c'est hyper important. Et puis si en plus t'as un entraîneur adjoint, un directeur sportif qui t'amène aussi cette bonne humeur, pas de pression avant les matchs, tu vois qu'elle est que du positif à l'arrivée. Tu peux faire qu'une bonne saison si t'as tous les ingrédients. Comme on dit souvent, faut que toutes les planètes soient alignées. Et ben Brest cette année c'était leur saison et bravo à eux. Mais comme tu dis aussi, y a pas que de la réussite, ça tombe pas du ciel. Il y a du travail, il y a de l'abnégation, il y a savoir se relever aussi. Quand on parle mal du club aussi en disant mais Brest n'y arrivera pas, pourquoi on va quand même pas être représenté par Brest en Ligue des Champions et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que les autres? Je veux dire, à un moment donné, bien sûr que ça fait rêver des grandes affiches, mais à un moment donné, pourquoi Brest serait moins qualifié qu'un autre? Pourquoi, à un moment donné, ils auraient pas justement, ils parlaient d'être humble. Être humble en Ligue des Champions et aller gagner des matchs, ça peut arriver à tout le monde.
En tout cas, ils le méritent et ils le prouvent semaine après semaine. Tiens, donnons la parole à Mickaël, donc supporter brestois qui a composé le 32-16. Salut Mickaël.
Ouais, salut la team.
Ça va?
Ouais, comment ça peut pas aller avec une équipe comme ça?
C'est sûr. T'es en direct avec Bruno Grougy, du coup, Mickaël.
Ouais, justement, un grand bonjour à Bruno, parce que c'est un joueur qu'on adore ici à Brest. Ouais, salut Bruno. Du coup, c'est vraiment le joueur typique à Brest que tout le monde aime. Parce que autant sur le terrain qu'en dehors, il est resté super simple, super abordable. On peut le croiser dans Brest. Une crème, c'est une crème Bruno. Et je pense que c'est à l'image des joueurs de Brest en général, c'est ce qu'on aime ici.
Mickaël, est-ce que tu vas être tendu devant ce Nantes-Lille ce soir?
Ah bah je suis rarement supporter nantais, je te l'avoue.
Aussi, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais pour une fois, ouais, on va être à fond derrière eux.
Il va y avoir beaucoup de supporters nantais ce soir.
Ah ouais, c'est clair.
Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça va être là-bas. Si Lille fait un faux pas, ouais, ça peut être vite la folie ici.
Bah c'est sûr. Est-ce que tu serais déçu de terminer cette saison quatrième, Mickaël?
Ah, c'est compliqué en début de saison, c'est pas programmable, mais maintenant qu'on est là, la Ligue des Champions direct, ça serait quand même une grosse fête, quoi. Rien que pour les déplacements, pour en espérant que le stade soit homologué.
Ah, oui, c'est un autre chantier.
Parce que, ouais, c'est un peu plus chiant si on peut pas le supporter chez nous, quoi.
Ouais, et ça, est-ce que c'est déjà un sujet de discussion d'ailleurs, Bruno, dans le vestiaire, parce que la Coupe d'Europe est là, quoi qu'il arrive. Il y a cette restriction de l'UEFA qui refuse les tribunes à Tubulaire, c'est le cas à Le Blé. Du coup, si jamais vous voulez jouer dans votre stade, ça sera une jauge limitée à 5000 personnes pour le moment, ou alors il faut délocaliser les matchs. Oui. On en parle déjà, ou vous êtes vraiment focus là sur le sportif qui se termine la semaine prochaine?
Ouais, bah forcément, on en parle déjà, malgré nous. Même si nous, le staff, on aimerait ne pas en parler, mais ouais, forcément, c'est un sujet qui revient. Mais je pense que même si ça sera 5000, le président fera tout pour que ça soit Le Blé.
Ah, quand même. Ah bah, ça Xavier, c'est une info.
C'est une info, mais c'est pas ce qu'avait dit Greg Lorenzi après Rennes. Il avait dit que pour lui c'était impensable de jouer devant 5000, mais qu'il devait demander au président. Donc effectivement, c'est une info, Bruno.
En tout cas, c'est le président qui décide.
Pour Denis Le Saint, 5000 à Le Blé, c'est mieux que 12000 à Guingamp ou 12000 au Mans, ou c'est ça?
Je pense.
Bruno, t'as pas fait de gaffe, t'inquiète pas. Mais c'est bien de nous le dire à nous.
Non, j'ai pas encore révisé là-dessus.
Ça va être compliqué d'avoir des places avec 5000.
Ah bah oui,
c'est seulement. C'est pour ça que je pense qu'il y a la demande qui va être effectuée. Après, on sait très bien qu'il faudra pas non plus s'imaginer le stade plein en Ligue des Champions si toutefois on y arrive, parce que le règlement est là. Mais encore une fois, c'est que pour le moment, des petites discussions qui sont comme ça, il n'y a rien vraiment de définitif. Donc pour le moment, on se concentre vraiment en espérant avoir cette place directe, mais on verra en temps et en heure.
C'est la suite logique, c'est le sportif. Se concentrer déjà sur ce qui va se passer ce soir et sur votre dernier match à Toulouse le week-end prochain. Merci beaucoup Bruno Grougy d'avoir été avec nous. Bon match ce soir. Hein. Allez le FC Nantes, hein, ouais. C'est ce qu'on vous souhaite.
Voilà. Exactement.
Et puis on se retrouvera la semaine prochaine avec ce déplacement donc de Brest à Toulouse. Je remercie Mickaël, supporter brestois, qui a participé au débat. Je remercie Xavier Grimaud, toi aussi. Hein. Merci Xavier d'avoir été là. Tu seras sur le pont ce soir. Et puis nous, Tony, on reste là. On va parler Ligue 2, justement, dans un instant. Tony, on va accueillir Jean-Michel Badiane, ancien joueur du PSG, coach adjoint à Angers. Angers qui est bien parti pour remonter directement en Ligue 1. On va en parler avec lui. Il reste une journée à disputer là aussi en Ligue 2. Exactement. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
15h52 sur RMC Intégral Foot avec Tony Vérel jusqu'à 17h. On parlera de l'OM dès 16h avec Florent Germain en direct de Marseille. L'Europe est-elle vitale pour l'OM, supporter marseillais? On vous attend au 32-16. Mais un mot de Ligue 2 tout de même pour terminer cette heure, Tony. La dernière journée de Ligue 2, dernière journée de championnat, sera à suivre vendredi soir à 20h45. Auxerre, d'ores et déjà sacré champion et promu en Ligue 1. Le deuxième ticket, l'accès direct à la Ligue 1, va se disputer entre Angers et Saint-Etienne. La bonne opération vendredi a été réalisée par le SCO qui est allé gagner à Annecy pendant que Saint-Etienne concédait le nul contre Rodez. Au classement, on a Angers qui est deuxième avec 67 points et Saint-Etienne qui est troisième avec 65 points. Donc les Angevins ont leur destin en main désormais. On en parle avec Jean-Michel Badiane, ancien consultant RMC Sport, aujourd'hui adjoint, entraîneur adjoint à Angers. Salut Jean-Michel.
Salut à tous.
Bienvenue, merci d'être là. Et
Salut Jean-Michel.
On imagine
Tony.
Ton soulagement, Jean-Michel, après les résultats de vendredi soir à Annecy, cette victoire d'ailleurs renversante, Jean-Michel, parce que vous étiez mené au score dans ce match.
Oui, mené au score, et j'ai envie de dire logiquement, dans le sens où tout au long de la semaine, on avait insisté sur le double objectif qui était le nôtre, à savoir gagner deux fois, comme on le dit assez souvent, notamment à l'échauffement, gagner deux fois, gagner dans le contenu et gagner bien évidemment en termes de résultats, parce que l'efficacité reste le paramètre le plus important. On n'était pas très content de notre première période, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a trouvé pas digne d'une équipe qui souhaitait rajouter une étape à son aventure, à savoir l'aventure qui menait à la Ligue 1. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce groupe, il a toujours cette envie d'être acteur de ce qu'il propose. Donc la deuxième période fut bien plus intéressante et nous avons été récompensés de cela. Donc forcément, il y avait le troisième objectif avec ce qui se passait à Geoffroy Guichard.
Est-ce que vous vous teniez informé d'ailleurs, Jean-Michel ?
Pas spécialement, mais étant donné que moi je suis toujours en relation avec l'analyse vidéo qui est dans les tribunes pour pouvoir faire des ajustements sur ce qui se passe de l'autre côté.
Il te l'a dit quoi ?
Bah même pas, mais moi j'ai l'application, donc j'ai toujours les notifications de tous les stades.
Ouais, d'accord.
Donc okay. que ça soit des matchs en France ou à l'étranger, j'ai les résultats en live. Donc ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard, aussi bien sur l'ouverture du score de Saint-Té que sur l'égalisation de Rajo, je les suis tout de suite effectivement.
Ouais. Bon, il y a une polémique d'ailleurs comme quoi Rajo serait ciblé par Angers et c'est lui qui a marqué contre Saint-Étienne. Bon, je vais pas te mettre en porte-à-faux sur cette question parce que c'est pas vraiment d'actualité et vous avez fait le boulot sur le terrain. Mais
c'est pas facile en plus pour eux. Hein.
Bah ouais.
Moi de te couper.
Non, mais
c'est pas facile parce que Annecy l'année dernière.
Annecy a privé Bordeaux.
Exactement.
D'un bon résultat à la dernière journée. T'as raison de le rappeler, Tony.
Et en plus, ils mènent au score, donc ça devait pas être facile dans les têtes des Angevins. Et franchement, ce qu'ils ont fait, c'était héroïque parce que à la mi-temps, d'ailleurs, Saint-Étienne était déjà en Ligue 1, quoi.
Et ouais.
Donc.
Non, mais c'est vrai. C'est la beauté aussi de ces multiplex de fin de saison. La question qu'on se pose, si on regarde plus globalement la saison du SCO, c'est comment vous avez fait, Jean-Michel, pour rebondir si vite après une saison si chaotique en Ligue 1, remobiliser tout le monde et redevenir un candidat direct à la montée en Ligue 1? Parce que même si le tout début de championnat a été un peu compliqué, par la suite, vous avez toujours été soit deuxième, soit troisième de championnat, quoi.
Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu déjà le constat de la saison dernière, même si pour ma part je suis arrivé moi au mois d'avril, mais à l'ex du jeu dans cette position de numéro 1 aussi, il y a eu très vite cette envie de faire un constat pour pouvoir tout de suite se projeter sur ce qui allait être notre saison en Ligue 2. Ensuite il y a eu la constitution d'un nouveau staff, donc ça c'est aussi le mérite qu'on doit rendre aussi à Alex, dans le sens où il y a plusieurs personnalités dans son staff et au-delà du domaine de compétences de chacun, on s'est tous attelés à avoir beaucoup de curiosité sur le domaine des uns et des autres, pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir aussi anticiper certaines choses, pour pouvoir aussi mesurer la complexité aussi de la tâche de chacun, que ça soit l'analyse vidéo, que ça soit le team manager, que ça soit l'intendant, que ça soit les personnes en charge de la préparation physique, que ça soit le médical, pour pouvoir parler d'un langage commun. Pour pas que les joueurs puissent aussi s'éparpiller, parce que c'est toujours compliqué, hein. Tony peut en témoigner, la difficulté d'un vestiaire, les personnalités, non, quand on est joueur. Facile. Ouais, c'est pas simple. Quand on est joueur.
Je pense que c'est de pire en pire. Je pense que c'est de plus en plus difficile maintenant avec tous les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Ils ont beaucoup de paramètres à gérer et puis il y a un entourage aussi qui est ce qu'il est. Donc quand on est joueur, on est beaucoup centré sur soi et c'est même pas un reproche, c'est juste un constat.
Ouais.
Quand on est staff, quand on est un membre du staff, on doit être tourné vers tout le monde, vers les autres. Donc ça a été la première étape. Et derrière, je rejoins, vous étiez avec Grouge juste avant du côté de Brest, qui est un pote. Donc je le rejoins tout à fait sur les notions de travail, d'humilité. Alors l'humilité, c'est donner de leçons à personne. Nous, on était ce qu'on était en début de saison. On était juste convaincus des ingrédients qu'il nous fallait mettre pour pouvoir être à la bagarre, là où on est aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi on a travaillé chaque matin à la Baumette. L'humilité, pour moi, c'est déjà arriver chaque jour et être prêt à donner le 100% du jour. Alors, il n'est pas toujours le même. Mais nous, staff, là, en termes d'énergie, en termes de conviction, en termes d'idées, en termes d'ambition, on devait chaque jour être très très haut pour pouvoir pousser les joueurs.
Et c'était important de le faire. C'est ce qui s'est passé sur le terrain et c'est ce qui fait que vous êtes en deuxième de Ligue 1, de Ligue 2 à une journée de la fin. Jean-Michel, je le disais, t'es formé au PSG, t'as une histoire particulière, t'as démarré ta carrière professionnelle au Paris Saint-Germain. L'actu à Paris, c'est la dernière de Mbappé sous le maillot parisien. La question qu'on se posait avec Tony à 15h, c'est est-ce que le club doit lui rendre hommage? Quelle est ta position à toi là-dessus?
Très honnêtement, j'espère que le club le fera. Dans le sens où l'histoire de Mbappé est ce qu'elle est à Paris, mais c'est un garçon qui est resté 7 saisons, si je dis pas de bêtises, ouais. Au club. C'est aujourd'hui un garçon qui fait partie du très très haut niveau sur le plan européen, sur le plan mondial. C'est un garçon qui, indépendamment de ses sorties et de ses performances, notamment en Ligue des Champions, parce que c'est le Graal que tout le monde recherche à Paris, m'a toujours donné l'impression d'être là. Il a été disponible, il n'a pas été blessé. Quel joueur de son niveau est resté autant de temps dans notre championnat? Il a aussi permis aussi qu'on puisse parler de notre Ligue 1 en d'autres termes aussi. Il a aussi, à mon sens, contribué à la progression du Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, on l'attend toujours, cette coupe aux grandes oreilles. Ça se fera maintenant sans lui, j'en suis persuadé. Mais pour l'investissement qu'il a eu au club, alors moi je rentre pas dans tout ce qui est à l'intérieur, les situations contractuelles, les discussions, ça ce sont des choses qui appartiennent aux joueurs, à ses conseillers et au club. Mais pour ce qu'il a donné en termes d'investissement au Paris Saint-Germain, j'espère que l'histoire se finira aussi bien que possible.
Et voilà, la réponse est claire. Merci Jean-Michel Badiane. Bon match vendredi prochain. Hein. Dernier match à négocier pour vous face à Dunkerque pour aller valider cette montée en Ligue 1. Merci, à bientôt sur RMC.
Merci beaucoup.
À bientôt. Ouais, 16h tout pile sur RMC. On a pris le temps avec Jean-Michel Badiane. On revient dans un instant. On parlera de l'OM dans quelques secondes. À tout de suite, Tony.
RMC Intégral Foot. C'est Intégral Foot.
Benoît Boutron.
16h08 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 17h avec une légende de la Ligue 1, consultant RMC Sport. Tony Gaulle, Tony Vérel avec moi pendant une heure encore. Tony, on va parler de l'Olympique de Marseille dans un instant. Eh oui. Les derniers espoirs de qualif pour la Coupe d'Europe. Marseille reçoit Lorient ce soir au Vélodrome. Est-ce que l'Europe est vitale pour l'OM la saison prochaine? On en parlera, tiens, avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille, qui nous rejoint dans une seconde. À 16h25, Tony, autre débat intéressant. On va bénéficier de ton expérience. Le dilemme pour Pierre Sage. Lyon se déplace à Clermont. Lyon peut faire un grand pas vers l'Europe. Mais 6 joueurs sont sous la menace d'une suspension pour la finale de la Coupe de France. Lacazette notamment. Alors, est-ce que ces joueurs doivent être alignés par Pierre Sage? Édouard G nous rejoindra. Il y en a 2 qui ont déjà été mis hors du groupe. Mais Lacazette est bien là. Est-ce qu'il faut le faire jouer ce soir? Ça sera la question qu'on se posera. Et puis, on fera une spéciale maintien à 16h45. Clermont, Lorient et Metz, 2 d'entre eux pourraient dire adieu à la Ligue 1 dès ce soir. C'est reparti pour l'Intégral Foot. Avec toujours ce direct, le Giro, la 9e étape, l'arrivée à Naples aujourd'hui, Johan Bredov.
42,5 km encore à parcourir avant d'arriver donc à Naples, tu le disais. Et on va arriver au pied de la première ascension, même de la seule ascension répertoriée du jour. Il montait des Procida d'un 4e catégorie.
Oh, cet accent.
Ouais, t'as vu ça. J'ai pas fait italien, Elver. 4e catégorie, je te le disais, avec les 2 hommes en tête qui ouvrent la voie, Maestri et Pietro Bon, les 2 Italiens qui possèdent maintenant à peine 45 secondes d'avance sur le peloton. Lancé par les équipes des sprinters, évidemment. Mais attention à ce final. Je te le disais tout à l'heure, Benoît casse-pattes quand même. Il y aura d'autres montées non répertoriées cette fois, mais ça pourrait faire du grabuge chez les sprinters. 42 km avant l'arrivée et l'écart qui tourne autour de la minute pour les 2 Italiens, Maestri et Pietro Bon.
Tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose et on suivra le final accidenté de cette 9e étape donc du Giro. Tiens, juste un score en cours en tennis. Vous le savez, c'est le Masters 1000 de Rome. Rafael Nadal a été éliminé hier par Hubert Hurkacz, le 9e joueur mondial. Novak Djokovic est en difficulté au 3e tour. Il affronte Alejandro Tabilo, le Chilien. Il a perdu le premier set 6-2. Il est mené 5-3 dans la 2e manche. C'est lui qui est au service. Je vous tiens informé si jamais Djokovic sort dès le 3e tour du Masters 1000 de Rome. Mais on l'a dit, on se projette sur cette avant-dernière journée de Ligue 1. Elle a démarré vendredi, elle se poursuit ce soir. Et c'est la dernière à domicile de la saison pour les Marseillais opposés à Lorient au Vélodrome. Marseille doit vite digérer l'élimination en demi-finale de Ligue Europa à Bergame jeudi soir. Marseille qui est 9e au coup d'envoi avec un match en retard à disputer mercredi à Reims. Au classement, 3 points de retard sur Lyon qui est l'actuel 7e de Ligue 1. On en parle avec Florent Germain en direct de Marseille avec nous. Salut Flo.
Salut Benoît, salut à tous, salut Tony.
Alors Flo, c'est intéressant de t'avoir maintenant parce que déjà tu es l'homme le mieux informé de Marseille sur l'OM, donc ça c'est toujours important pas, de le rappeler, si, il n'y a pas photo. mais surtout tu étais au contact des supporters dans l'après-midi. La question qu'on se pose avec Tony, nous, dans cette émission, c'est est-ce que l'Europe est vitale pour l'OM? Quel est le son de cloche chez les supporters, Flo, alors?
Écoute, il y a deux Coupes d'Europe. Il y a la Ligue Europa qui a attiré les foules à Marseille parce que, voilà, comme l'a dit Jean-Louis Gasset, les supporters ont été irréprochables cette saison. Et malgré le coup dur initial de la saison, c'est-à-dire que l'OM espérait, les supporters avec, jouer la Ligue des Champions, hein, faut pas l'oublier. Et du coup, cette belle aventure qui s'est mal finie, mais belle aventure quand même en Ligue Europa, ça a engendré un stade plein et un engouement fort et avec une ambiance européenne qui est toujours un peu particulière à Marseille. Après, voilà, faut être assez clair, les supporters, ils sont pas excités par une éventuelle place en Ligue Europa Conférence. Et d'ailleurs, le discours, il est un peu partagé entre ceux qui veulent quand même ce petit rendez-vous européen dans la semaine et ceux qui estiment qu'à un moment donné, il faudrait peut-être, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, s'il n'y a pas de Ligue Europa, repartir sur une presque une saison blanche avec du coup un nouveau coach et pouvoir reconstruire plus sereinement. L'Europe, mais surtout la Ligue Europa, c'est l'espoir qu'il y a. Et d'ailleurs, c'était ce que disait Jean-Louis Gasset hier en conférence de presse. À Marseille, on espère encore la sixième place, tant que mathématiquement c'est possible. Et en cas de victoire ce soir, et si Lens se fait accrocher à Rennes, c'est pas totalement impensable, Marseille reviendrait dans les clous et jouera un gros match mercredi à Reims. Donc voilà, Marseille veut la Ligue Europa. Pour résumer.
Et il faudrait faire un sans faute quasiment parce qu'il y a 5 points d'écart entre Lens et Marseille, même si Lens, tu l'as dit, a un match en plus les Lensois, parce que 32 matchs disputés, Marseille 31. Donc ce sera compliqué, mais pourquoi pas, pas impossible. Tony, ton avis là-dessus, est-ce que l'Europe c'est vital pour l'OM? Est-ce qu'aller chercher notamment cette Ligue Europa Conférence, c'est un vrai enjeu de fin de saison pour les Marseillais?
Après, comme le disait très bien Flo, ça dépend ce que le club veut faire. S'ils veulent repartir à zéro, essayer de se donner une saison pour faire une belle saison prochaine et revenir au devant de la scène et jouer les premiers rôles, ça peut être une solution de dire c'est pas grave si on fait pas la Coupe d'Europe. Pour moi, quand même, un club comme l'OM, c'est bien, même si comme on dit tous, ce qu'on veut tous, c'est le Graal, c'est la Ligue des Champions. Mais à un moment donné, quand tu recrutes aussi, ça peut intéresser des joueurs de savoir que tu vas quand même faire une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit.
Tu penses qu'il y a une différence dans le discours, Tony, quand tu es dirigeant marseillais, que tu vas solliciter un joueur si tu joues la Ligue Europa Conférence ou pas?
Ah oui, obligatoirement. Moi, je me rappelle quand je suis parti de Lens, les derniers clubs qui étaient intéressés, enfin les clubs qui restaient en lice, c'était Lyon et Paris Saint-Germain. Et je suis parti plus à Lyon parce que Lyon faisait le tour préliminaire de la Ligue des Champions, alors que Paris Saint-Germain n'était pas du tout en Coupe d'Europe. Donc à un moment donné, ça pèse dans la balance obligatoirement. Je veux dire, tu y penses, tu te dis. Quand t'es compétiteur, t'as envie d'être sur la scène européenne. Et le fait que Marseille n'y soit pas, pour moi, ça reste dommageable. Ouais. Après, comme on le dit tous, ça dépend des objectifs et des projets du club pour la saison prochaine.
Parce que tu vois, Flo, on en parlait ce matin ce midi avec coach Courbis dans les paris RMC, et lui expliquait qu'en fait, ce serait un mal pour un bien de ne pas être européen parce que tu peux resserrer le groupe, renforcer en temps.
Roland a dit ça, que jouer le jeudi, c'est un handicap pour après jouer le dimanche.
Ah, Roland a surtout dit.
Je plaisante. Eh oui. Parce que je sais que c'est.
Tu connais son discours établi. En gros, ce qui t'explique, c'est que dans cette équipe de l'OM, si tu veux être ambitieux la saison prochaine, il y a peu de joueurs dans cette ossature qui ont le niveau justement de jouer le très haut tableau en Ligue 1. Donc il te dit, si tu vas chercher des joueurs de qualité, tu n'auras pas la quantité nécessaire pour être là sur deux tableaux. Tu vois,
non mais j'en plaisante parce que ça a été longtemps un débat qui nous a même un peu opposé à l'antenne ou sur nos podcasts, mais depuis très longtemps, parce que depuis de longues saisons, je sais que coach défend l'idée que bon, la Ligue Europa, ça peut passer, mais
pour lui, c'est pas une Coupe d'Europe.
Comme il dit, la Ligue Europa Conférence, il y a Ferrance dedans, mais il y a aussi con. Oui. Et il explique que c'est non, mais je sais, je la connais par cœur, hein, sa petite phrase dont je lui fais un bisou. Mais certains supporters, je le disais, sont partagés. Parce que Tony, c'est vrai, tu prends l'exemple, ton exemple personnel, mais t'as bien dit la Ligue des Champions, le tour préliminaire de la Ligue des Champions qui t'a incité à choisir Lyon à l'époque. Là, la Ligue Europa Conférence, c'est vrai que ça fait moins rêver, même si, regardez, l'OM l'a respecté quand ils ont eu à la jouer. Ils sont quand même allés en demi-finale jusqu'à contre le Feyenoord. Ça avait rempli le stade Vélodrome.
Flo, l'exemple que j'ai donné à Roland, c'est que, regarde, Lille a fait quart de finale, alors qu'en poule, la poule était très accessible et Lille a fait tourner, envoyer même une équipe bis dans ses matchs de poule de Ligue Europa Conférence, tu vois.
C'est pour ça que j'insiste, c'est pas un avis unanime des supporters. Je pense à un avis en revanche qui pose question chez les dirigeants. Quoi qu'il arrive, ils aimeraient, je pense, être en Coupe d'Europe pour différentes raisons. Mais voilà, si au final il y a un échec et que l'OM n'y est pas, il faudra effectivement voir le seul côté positif de la chose, c'est que en général, quand tu peux préparer plus sereinement tes matchs de Ligue 1, après tu repars sur un cycle et ça va être le cas avec un nouvel entraîneur. Tu repars sur un cycle où tu vises vraiment plus sereinement une qualif en Ligue des Champions, même si c'est dur à dire parce que l'OM et l'Europe, malgré l'échec de jeudi dernier, c'est resté une finale de Ligue Europa, malgré la claque reçue à Bergame, souvent il y a des bons frissons européens à Marseille.
Avant d'accueillir Anders qui veut participer au débat avec nous, le supporter marseillais, écoutons justement Jean-Louis Gasset qui réclame l'union sacrée pour cette fin de championnat, notamment le match de ce soir, le dernier de la saison au Vélodrome.
Bien sûr que je comprends la déception, moi aussi je suis très déçu. Je comprends la colère, je comprends tout. Mais demain, l'objectif majeur, c'est de gagner pour laisser Marseille européen. C'est le leitmotiv de demain dans ce Vélodrome. J'ai envie de dire aux supporters, malgré la rancœur, venez nous encourager une dixième fois. Que vous fassiez, vous êtes irréprochable et nous, on est impardonnable.
Voilà, déclaration de Jean-Louis Gasset hier en conférence de presse d'avant-match. Tiens, juste un mot de tennis.
Si je peux le décrypter, vas-y.
Je confirme juste la défaite de Djokovic, troisième tour du Masters 1000 de Rome, battu en 2-7 par Tabilo, le Chilien. Défaite 6-2, 6-3. Vas-y, Flo.
Non, pour décrypter ce sentiment en tribune, et je l'ai souvent expliqué à l'antenne, c'est que en fait l'aventure en Coupe d'Europe, donc jusqu'en demi-finale, elle a contenu quelque part une certaine grogne qui existe dans les tribunes. Les habitués des virages ou ceux qui connaissent un peu le mouvement ultra vont comprendre ce que je veux dire. On bâchait à l'envers dans le virage nord, c'est-à-dire qu'on mettait le symbole ou le nom du groupe de supporters à l'envers depuis quelque temps pour montrer un mécontentement et des tensions avec les dirigeants. Dans le sud, les South Winners par exemple ont une relation un peu de je t'aime moi non plus ou une dent contre Pablo Longoria. Enfin, il y a eu quand même quelques tensions en interne cette saison. Et c'est vrai que là où les supporters ont été vraiment irréprochables, c'est qu'ils ont mis de côté cette rancœur là tant que les objectifs sportifs étaient présents. Donc c'est pour ça que il y a eu un point d'interrogation concernant l'accueil de ce soir. Il est possible qu'il y ait quelques banderoles vu que du coup l'OM est éliminé et qu'on se concentre sur la Ligue 1 dans une compétition dans laquelle l'OM est 9e. Mais malgré tout, entre temps, on a bien vu qu'il s'était passé des choses en coulisses et donc Pablo Longoria plus Mehdi Benassia travaillaient sur la saison prochaine, allaient être probablement confortés quand Franck McCourt décidera de venir sur Marseille et de s'exprimer peut-être. Donc entre-temps, voilà, ça s'est clarifié pour la saison prochaine, mais ça ne veut pas dire que tout est rose entre certains groupes de supporters et les dirigeants actuels qui le savent, et c'est pour ça qu'il y a un petit point d'interrogation concernant l'accueil pour la dernière au Vélodrome.
Tiens, Tony, Florent, Anders voulait participer au débat avec nous, les supporters marseillais. Salut Anders. Tu nous entends ?
Ouais, je vous entends, et vous ?
Bon, est-ce que ça serait dramatique pour l'OM de ne pas être qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine ?
En fait, j'ai écouté, et pour nous, les supporters, oui. Pour le club en lui-même, si on repart avec un Fonseca qui a un style de jeu très prononcé, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un match par semaine, de se concentrer là-dessus ? Et d'apprendre pendant un an de faire un gros dégraissage, parce que faut dégraisser, hein, y a des mecs qui n'ont rien à faire ici, et de repartir sur un an en travaillant sur les bases et après se requalifier, mais bien. avec une équipe qui va jouer, peut-être plus de moyens parce qu'on aura dégraissé. Est-ce que c'est, pour moi, c'est peut-être même mieux de se concentrer juste sur la Ligue 1.
Ouais. Tu vois, les exemples récents, ça peut être le RC Lens qui n'avait pas de Coupe d'Europe, qui a fait une saison fantastique l'an passé, qui a terminé deuxième derrière le PSG avec un style de jeu identifié, des joueurs frais tous les week-ends, Anders.
Bah, c'est ça, mais même Lille cette année, en soi, l'année dernière, ils ne jouaient pas de Coupe d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, on a vu, l'année dernière, ça a travaillé. Cette année, on a vu un Lille qui joue au foot. Donc là, ça parle de Fonseca. Donc si on lui laisse peut-être une année dégraisser, lui laisser un peu les clés du camion, arrêter de ramener les joueurs que certains veulent, le président ou le directeur sportif, peut-être en parler plus avec l'entraîneur, et puis partir sur un cycle stable, en fait. Arrêter de changer d'entraîneur tous les ans.
C'est la grande question. Ouais. C'est la grande question, Flo. D'ailleurs, c'est le discours qu'on tient en interne. On veut de la stabilité au poste d'entraîneur. Et question, Flo, est-ce qu'il y aura des moyens pour recruter? Parce que ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une incidence sur une éventuelle Coupe d'Europe ou pas par rapport aux finances disponibles l'été prochain?
Oui, il y aura forcément une incidence parce que au départ, il y a quand même eu un recrutement qui était basé sur une qualif en Ligue des Champions. Donc heureusement Pablo Longoria et les dirigeants avaient un peu indexé certains revenus sur une qualif ou pas. Donc il y aura forcément une baisse de la masse salariale. Le pourcentage exact, il est difficile à connaître tant qu'on n'a pas les données, le classement final de l'OM, tant que Franck McCourt aussi ne clarifie pas sa volonté ou pas de continuer à investir pour l'Olympique de Marseille. Donc là-dessus, on y verra plus clair en fin de saison. Mais la tendance, effectivement, c'est que certains gros salaires, c'est surtout en termes de masse salariale, plus en termes d'investissement, que l'OM va essayer de réduire un peu la voilure, surtout vu que l'OM ne sera pas qualifié en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y aura pas une incidence énorme par rapport au fait de savoir si l'OM jouera la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence ou pas de Coupe d'Europe, parce que on le sait, le train de vie, il est totalement différent. Enfin, une des revenus de la Ligue Europa, c'est 4 à 5 fois inférieur à ce que peut rapporter une Ligue des Champions. Et c'est quasiment 10 fois moins quand tu joues la Ligue Europa Conférence. Donc en fait, c'est plus le fait qu'il est déjà acté que Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions a déjà incité les dirigeants de l'OM à réfléchir à un train de vie forcément réduit, notamment en termes de masse salariale.
Bon, merci Anders d'avoir participé au débat. Merci à toi Flo, au commentaire ce soir de ce Marseille-Lorient.
Coup d'envoi pour la dernière de Gasset aussi.
Dernière de Jean-Louis Gasset au Vélodrome. Bon, qui sera impressionné, je pense, quand même.
Oui, alors s'il y en a bien un a gardé une certaine cote, ou en tout cas qui a été apprécié dans son engagement, sa sagesse, son discours, c'est Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps.
C'est fabuleux ce qu'il a fait quand même.
À eux deux, fait le maximum. Ils étaient très touchés que l'aventure s'arrête de cette manière mardi, et ils sont très sincères quand ils disent qu'ils vont faire le maximum pour ramener l'OM au moins en Coupe d'Europe, si possible en Ligue Europa. Donc eux, je pense qu'ils auront une belle ovation. Tous les autres, c'est moins sûr.
Ouais, ça c'est sûr. Et juste un mot sur Gasset, départ définitif ou peut-être un rôle la saison prochaine, on sait pas encore, ça reste
à une bonne question. C'est une bonne question. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'OM recherche un nouveau coach. On va se référer à ce qu'a dit Mehdi Benassia, sa dernière intervention médiatique, c'était sur RMC Jérôme Bretagne. il disait, je pense qu'il sera il prendra pas trop de recul et il sera jamais trop loin du football. En tout cas, il a gagné le droit qu'on lui propose peut-être quelque chose. Alors je sais pas si ce sera le cas à Marseille ou ailleurs, mais en tout cas je pense que cette aventure olympienne, elle aura permis à Jean-Louis Gasset de
rebondir,
de se refaire une image et de rebondir après l'échec après le
traumatisme de la Coupe
d'Afrique des Nations.
C'est sûr. Merci Flo, bonne soirée à toi, on te retrouve dès 20h, l'After Live spécial avant-dernière journée de Ligue 1, dernier match de l'OM au Vélodrome cette saison. Tony, tu restes là. Dans un instant, on parle de Lyon, ton ancien club. Oui, il n'y a pas que le Racing Club de Lens, il y a l'Olympique Lyonnais également. On sera avec Edouard G, que tu connais depuis des années. Est-ce que Pierre Sage doit prendre le risque d'aligner les joueurs menacés d'une suspension, une éventuelle suspension pour la finale de Coupe de France? Ils sont 6. S'ils prennent un carton jaune ce soir à Clermont, ils seront privés de finale. Que va faire Pierre Sage? La réponse dans un instant. Ne bougez pas.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
16h32 sur RMC Intégral Foot jusqu'à 17h avec Tony Vérel. Dans un quart d'heure, Tony, on fera une spéciale lutte pour le maintien. Tu as connu cette situation, toi aussi.
Eh oui, y a pas oui, malheureusement.
Il n'y a pas que des bons moments dans une carrière.
C'est ça.
On parlera des clubs en difficulté. Clermont, Metz et Lorient, notamment, les espoirs de maintien. On dira un mot du FC Nantes aussi, hein, pas encore officiellement maintenu. Il faut un dernier coup de collier pour les joueurs d'Antoine Comboiré. Et ils ont du mal, d'ailleurs, à aller glaner des points à la Beaujoire depuis quelques temps. Le tour des directs avec le vélo. Et oui, effectivement, c'est une fin d'étape très compliquée au Giro, Yvan Bredov.
Oui, je l'avais annoncé, cette fin d'étape. Et oui, je connais. Naples, les arrivées à Naples, je les connais. Et il y en a un qui se montre toujours, c'est Julien Alaphilippe qui a porté une attaque assez franche. Julien, l'ex-champion du monde, donc pour essayer de décrocher ce peloton. Mais il y a Alpecin qui s'est accroché derrière. Et cet Alpecin-là, il ne veut pas gagner l'étape. Hein. Il est là pour saboter cette tentative d'échapper. Il travaille pour son leader. Mais Julien Alaphilippe qui en remet une dans les montées non répertoriées pour cette arrivée à Naples, à 26,5 km de l'arrivée. D'ailleurs, les deux, Maestri et Pietro Boll, les deux échappés matinaux, ont été repris par Julien. Derrière aussi, c'est sorti avec d'autres coureurs. Voilà, ça s'emballe dans cette fin d'étape à 26,4 km de l'arrivée. Il y a quelques sprinteurs, quelques grosses cuisses qui ont lâché. D'ailleurs, Tim Merlier, par exemple, le vainqueur de la troisième étape qui a lâché. Jakobsen également. Lorenz Pizzi, le jeune coureur de la Groupama FDJ, a été piégé. Mais voilà, Julien Alaphilippe qui fout un petit peu le bordel hein, dans cette étape. Et c'est tant mieux pour le double champion du monde parce qu'on s'est franchement ennuyé durant presque 150 bornes. Mais voilà, Julien est là pour nous redonner le sourire. Allez Julien,
et on est content
km.
De le revoir offensif comme ça, Julien Alaphilippe, après des semaines et des mois galères pour le champion du monde français. 16h33, parlons du match qui nous attend ce soir au Gabriel Montpied. Clermont-Lyon, 21h, Clermont dernier, Lyon 7e. Les Lyonnais qui peuvent encore espérer gagner une place en Coupe d'Europe grâce au championnat. On en parle avec Edouard G. Salut Edouard.
Salut Benoît. Salut Tony.
Edouard, en direct du Groupama Stadium, parce que il y aura le match de play-off de D1 féminine entre Lyon et Reims à partir de 17h, Edouard.
Oui, devant 11 000 personnes. Encore une performance assez remarquable. Exactement. En termes de billetterie. Surtout pour ce match, un dimanche de grand pont, voire de viaduc. La ville est morte d'une certaine manière, il n'y a plus grand monde. Il y a quand même près d'un dizaine, 11 000 personnes qui vont pouvoir.
D'ailleurs, un peu de voiture dans ta région en ce moment-là. Hein,
oui, tout au long de la journée. Je suis venu un peu en avance. Mais
on pense à tous ceux qui sont coincés dans les bouchons, peut-être aux abords du stade du Groupama Stadium qui est le long de l'autoroute.
Donc, de Fourvière.
Ça peut arriver.
Voir la Rocadès qui est coupée, voilà, tu connais ça, Tony.
Ouais, et pour être complet sur le foot féminin, rappelez que le PSG s'est qualifié pour la finale de D1 féminine. Hier, victoire au tir au but au Parc des Princes face au Paris FC. Nous, on parle des garçons et du dilemme du soir, Edouard. La gestion des joueurs menacés de suspension pour la finale de Coupe de France. Ils sont 6, Lacazette, Nuama, Maitland-Niles, Tolisso, Benrahma et Tagliafico. Deux d'entre eux ont été écartés, comme ça on ne va pas prendre de risques. Oui. En revanche, un joueur comme Lacazette sera présent ce soir à Clermont. Cette question simple, comment gérer ceux qui sont sous la menace d'une suspension? Quel est le discours en interne déjà, Edouard?
C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Et on l'a beaucoup posée d'ailleurs à Pierre Sage. Ça s'est terminé sous une forme de ni oui ni non, parce qu'on essayait d'y revenir, confrère après confrère, sur est-ce que tu vas emmener un défenseur, plutôt un attaquant. Parce que dans la liste, il y avait deux défenseurs, Maitland-Niles et puis Nicolas Tagliafico, donc les latéraux, qui d'ailleurs, à ce niveau là, il n'a pas pris de risque, ils ne sont pas dans le groupe qui a été donné ce matin à 11h. Ensuite, il y a un milieu de terrain, Corentin Tolisso, et puis il y a les trois attaquants titulaires, Ernest Nuama, Alexandre Lacazette et puis Saïd Benrahma. Donc, il y en a, on a déjà coupé un peu la poire en deux, il y en a qui n'ont pas fait les 150 km entre les deux villes. Voilà, ça c'est réglé. Pour le reste, on imagine qu'il ne va pas prendre beaucoup de risques. On n'imagine pas un de ces quatre titulaire. Ça veut dire que parce que alors surtout un Alexandre Lacazette au milieu de terrain il y a peut-être le choix de Corentin Tolisso de le préserver parce qu'il y a un petit peu de solution et puis devant c'est peut-être l'occasion de récompenser Mama Baldé qui vient de marquer, récompenser Malik Fofana et puis Ryan Cherki, donc il y a moyen de faire autrement. Mais c'est un vrai dilemme pour le staff.
C'est la chance de Lyon, c'est qu'il y a un effectif plus fourni sur cette deuxième partie de saison. Donc Pierre Sage a malgré tout du choix, tu as raison, en plus il n'y a pas de blessés. Mais il y a des joueurs prépondérants, des joueurs essentiels, Alexandre Lacazette notamment. Tony, que doit faire Pierre Sage? Est-ce qu'il doit mettre au frigo les joueurs qui sont menacés de suspension?
Mais après, c'est sûr que c'est quand même une finale derrière de Coupe de France à jouer. Alors moi, entre vous et moi, qui ne viennent pas titiller Lens, ça m'arrangerait.
Bon, c'est quand même tes deux anciens clubs, quand même.
Oui, ah non, mais et qui gagne la Coupe de France. Vous voyez, ça j'y rentre pas comme ça. Voilà. Mais non, je plaisante, bien sûr. Mais, mais c'est sûr que ce sont des décisions assez difficiles à prendre pour l'entraîneur. Après, comme on pouvait en discuter, je pense qu'Alexandre Lacazette est assez intelligent. C'est un attaquant pour jouer ce match sans véritablement sortir de ses gonds. Même si ça arrive, hein. Moi ça m'est arrivé une fois avant la finale avec Bastia, où on jouait le dernier match de championnat à Sedan, et j'ai eu une petite prise de bec, alors que j'ai en grande partie de ma carrière, je parlais pas sur le terrain, et là les dirigeants ont eu peur que je me prenne un carton, donc ils ont failli me faire sortir du terrain, même sans, je crois qu'il y avait plus de changement, mais ils s'en foutaient, allez, sors.
On finit à 10, tu sors.
Voilà. Mais Non, c'est sûr que c'est pas évident. Après, je pense qu'il peut se permettre, vu l'effectif, de aussi préserver ses joueurs. Ouais. Et puis de se dire, voilà, si ça se passe mal, ils pourront rentrer à tout moment, quoi.
Mais ça veut dire qu'on acte le fait que la priorité absolue, Edouard, c'est la Coupe de France. C'est aller chercher un trophée. Lyon n'a plus gagné de trophée depuis 2012. Malgré cette remontada fantastique au championnat, la priorité, ça reste la Coupe.
Oui, alors on peut voir l'affaire comme ça, et puis on peut aussi se dire que on peut aussi récompenser un groupe, parce que mine de rien, tous ces remplaçants, quand on fait le compte, ils ont amené 19 points sur les derniers matchs, hein, quand ils renversent, si on prend le score, quand ils rentrent sur le terrain, quand Lyon est mené avec leur but ou leur passe décisive, vous imaginez dans cette deuxième partie de saison, ils rapportent
c'est
19 points, c'est franchement énorme. Donc c'est aussi une forme de récompense, et puis de voir ce qu'ils peuvent avoir en étant titulaire, en sachant que Malik Fofana, la seule fois où on l'a vu titulaire, c'était plutôt en piston défensif gauche, donc gauche, c'était pas forcément son poste, voilà. Mais les autres, voilà, ils ont déjà été, pourquoi pas, titulaires. Et puis un Mama Baldé, quand on voit l'état dans lequel il est maintenant, en pleine confiance, il marque, et puis il a la confiance de ses coéquipiers, parce que son but de la semaine dernière, non seulement il le marque, mais il est fêté par tout le groupe. Donc voilà, c'est l'histoire aussi de fêter un groupe comme ça, quoi, en fait. C'est magnifique.
Ce qu'a réussi à faire Pierre Sage, c'est extraordinaire. Alors que, et on en discutait avec Jérôme dans l'émission
dans Rotten sans flamme.
Au départ, c'est vrai que personne pensait que ça allait être l'homme de la situation. Et bravo à lui, bravo aussi au coach marseillais qui a fait remonter le club aussi. Je pense que nos coachs français ont encore de l'avenir, et quel que soit l'âge qu'ils ont et quelle que soit l'expérience qu'ils ont aussi. Et ça, moi, ça me fait plaisir, parce que on va toujours chercher des entraîneurs très loin parce qu'on pense qu'ils vont être meilleurs, mais je pense qu'on a aussi un beau réservoir ici en France, et ça, faut pas l'oublier.
Ce qui est sûr, c'est que le travail de Pierre Sage est remarquable. Pour revenir à notre débat, juste d'un mot de ton expérience, justement, Tony, lorsqu'on est sous la menace d'une suspension et qu'une grande échéance arrive, si on est aligné par son entraîneur, on y pense forcément. Ça trotte dans la tête de pas faire une faute, de se retenir, de, je sais pas, de pas jouer les coups à fond.
On essaye de pas y penser. Après, souvent, c'est les autres qui vous en parlent, en fait. Moi, je te prends encore l'exemple là de ce match de Sedan. C'est que quand le joueur de Sedan est venu me prendre un petit peu le bec comme ça, moi, je réponds pas généralement sur Internet. Et c'est les autres, mes coéquipiers, ils me disaient « Tony, ne dis rien, Tony, ne dis rien ». Ils venaient me retenir. Alors, je leur disais « Mais il n'y a rien, vous inquiétez pas ». Mais en fait, si tu veux, c'est les autres aussi y pensent, parce que c'est un groupe, parce qu'on a envie d'aller en finale ensemble, de gagner cette finale. Donc, si on vous le répète, vous allez y penser. Mais en règle générale, voilà, on essaie de faire abstraction, de jouer le match normalement. Mais à un moment donné ou un autre dans la rencontre, certainement qu'il y pensera, c'est sûr.
Merci Edouard d'avoir été avec nous.
Est-ce que tu me donnes 30 secondes narrer une anecdote avec ce que Tony est là, ça nous rajeunit, hein. Et moi, c'était mes débuts à Lyon. Faut juste que je raconte. Alors, je pense pas qu'on a échangé là-dessus, Tony, mais tu sais que à cause de toi, j'ai été suspendu à un moment donné par Jacques Santini, ton entraîneur à l'époque, parce qu'il m'avait vu te questionner. C'était la grande époque, on faisait des interviews à la sortie du vestiaire, des interviews sur le parking. Hein, il y avait pas encore tout le
ça ne m'étonne pas.
pas. Vas-y, vas-y. Ça ne m'étonne pas. Vas-y, je te laisse terminer, mais ça ne m'étonne pas. Vas-y.
Et donc, à l'époque, on faisait des interviews presque tous les jours. Hein. Tu nous voyais tous les jours à Tolamologe, à la sortie de la sortie du vestiaire, pile poil. Et là, on faisait des interviews. Alors, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et puis là, c'était au moment où tu étais en instance de près du côté de Bastia, je crois. Et il m'a vu t'interviewer. Et alors, je t'assure, je crois que ça a duré 2-3 mois. Il répondait plus à mes questions. Hein.
Ah non, mais c'est ça qui est affolant. Alors, mais tu sais que t'es pas le premier à le dire. Hein.
J'en parle parce qu'il y a prescription. Et surtout, oui, j'en ai parlé avec lui récemment. Mais je trouve que ce sont des choses qui sont marrantes, quoi, en fait. Alors, peut-être pas marrant pour toi, mais voilà.
Moi, je trouve que c'est au-delà d'être marrant, c'est aberrant. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que tu viens m'interroger que t'es déjà ou d'accord avec moi ou pas, ou que t'es contre lui ou pas. Tu te rends compte que moi, j'ai eu exactement la même anecdote par un journaliste de l'Est républicain qui était venu faire un match où il ne parle pas de moi, mais parce qu'il était de l'Est républicain et qu'il avait fait un article la semaine d'avant sur moi, il n'a pas voulu lui répondre. Enfin, c'est quand même aberrant. Quoi,
c'est ça aussi le football.
Ouais, malheureusement.
Bon. Malheureusement.
Merci Edouard. 17h, la deuxième. Oula. Ah, c'est pas pour Edouard. Alors, c'est l'alerte. L'alerte qui vous signale que vous avez 5 minutes pour vous inscrire au jeu de la roue RMC, jusqu'à 20 000 euros à remporter grâce à RMC. Pour vous inscrire, vous envoyez roue par SMS au 732-16, roue au 732-16. Profitez-en, ça se termine à 16h48, donc envoyez tout de suite roue par SMS. Merci Edouard, à tout à l'heure pour les playoffs de la D1 féminine.
Désolé Edouard.
Voilà, les excuses de Tony Vérel du coup. Et dans un instant, on parle de la lutte pour le maintien. On sera avec nos correspondants Pierre-Yves Leroux, Damien Tardieu. Les clubs qui sont en danger dès ce soir. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
16h45 sur RMC l'Intégral Foot. Faites attention si vous êtes sur la route, vous avez le temps, on vous accompagne jusqu'à 17h. On est avec Tony Vérel et ensuite ce sera la suite de l'Intégral Foot avec Flora Moussi et Roland Courbis notamment. On continuera de lancer cette avant-dernière journée de Ligue 1 qui a démarré vendredi mais qui se termine ce soir. Le direct, c'est le vélo, le Giro, les 16 derniers kilomètres de la 9e étape, Johan Bredow.
Et deux Français en tête, Benoît, Julien Alaphilippe qui a initié le coup et qui est sorti après Ewen Kostiou, très fort Ewen Kostiou qui est d'abord revenu à contre-temps sur le groupe de 6 avant de suivre Julien Alaphilippe dans son attaque. Ils sont deux Français donc seuls en tête, 14, même 17 secondes d'avance sur deux autres hommes, c'est Vermerck et Maestri qui sont en chasse-patate. Et 25 secondes d'avance sur le peloton mené par les Alpecines qui travaillent pour Caden Gross et la Lidl Trek qui travaille depuis maintenant une dizaine de kilomètres pour Jonathan Milan, porteur du maillot cyclamen, le classement par points et vainqueur de la quatrième étape. Mais voilà, deux Français en tête à un peu plus de 15 kilomètres de l'arrivée, Ewen Kostiou et Julien Alaphilippe.
Et ça va ravir Pierre-Yves Leroux, notre correspondant dans l'Ouest qui est passionné de vélo et qu'on retrouve tous les étés sur les routes du Tour de France. Salut Pierre-Yves.
Salut Benoît, allez Ewen, mais c'est pas gagné quand même, ça va être chaud.
C'est pas gagné, mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Lui aussi aime le vélo, le sport en général. Damien Tardieu à Clermont, salut Damien.
Salut, et allez Julien, il est auvergnat bien
et
évidemment.
Voilà, et oui, chacun fait évidemment résonner les noms. Voilà son poulain, le poulain de sa région.
Salut à tous.
Les gars, vous êtes là pour la lutte pour le maintien. On a convié Pierre-Yves parce que Nantes n'est pas encore maintenu. Bon, c'est bien parti, mais c'est pas encore fait mathématiquement. Ouais. Et aussi parce que ça concerne Lorient. Lorient qui est avant-dernier, je fais le point sur le classement. D'ailleurs, Nantes 14e, 33 points. Le Havre 15e, 32 points. Metz 16e et Barragis 29 points. Lorient 17e, 26 points. Clermont, infime espoir de maintien, dernier avec 25 points. On pourrait connaître deux relégués ce soir. Hein, ça pourrait être Clermont et Lorient. Alors, parlons quand même du FC Nantes rapidement, Pierre-Yves, parce que c'est pas fait. Il faut aller chercher quelque chose ce soir à la Beaujoire contre Lille. Le problème pour les Nantais, c'est que c'est une vraie cata à domicile depuis des semaines.
Bah c'est même la honte, hein, on peut le dire. C'est la honte à domicile parce qu'ils ont réussi à battre quand même un record dans l'histoire du club. Déjà, c'était d'être l'équipe à perdre sur une série la plus longue. Mais là, ils pourraient rentrer carrément dans l'histoire de la Ligue 1 puisque jamais une équipe n'a perdu 9 fois de suite à domicile. Nîmes, Toulouse et Metz ces dernières années avaient fait 8 comme Nantes désormais. Donc Antoine Comboiré s'appuie sur ça. Il faut, il l'avait dit il y a 8 jours déjà, dans son langage fleuri, se dépuceler à la Beaujoire. Aller au moins chercher un point face à cette équipe de Lille pour se sauver déjà, et puis pour montrer aux supporters que cette série est terminée. Bon, ça n'aura pas été une belle année hein, à domicile. Il n'aura pas été une belle année tout court pour le FC Nantes avec trois entraîneurs quand même qui sont passés sur le banc.
Pierre, je sais pas si t'as écouté à 15h30, on était avec Bruno Grougy. Je peux te dire que tout le peuple brestois sera à fond.
Oui, parce que ça joue aussi sur ça, effectivement, pour la Ligue des Champions. Et je pense que entre le fait que Nantes veut à tout prix quand même essayer de casser cette série à domicile et que Lille doit aller chercher 3 points, ça risque d'être un match assez sympa.
C'est sûr. C'est un des matchs à suivre de la soirée, Tony, parce que Nantes veut aller chercher tout seul son maintien, aller sans compter sur les résultats des autres, quoi.
Bien sûr, et puis comme le disait très bien Jean-Pierre-Yves, à l'arrivée, ça risque de nous donner vraiment un match intéressant parce qu'il y a de l'enjeu, des deux côtés. Donc c'est sûr qu'à l'arrivée, Lille va vouloir à tout prix gagner parce que ils connaissent déjà le résultat de leur adversaire direct et Nantes va vouloir à tout prix justement rester sur 9 défaites à domicile, quoi, surtout à la Beaujoire.
Et puis tu as connu ça, Tony, aussi dans ta carrière. C'est, même si c'est pas officiel, ça pourrait être les adieux pour Palois notamment, qui est aujourd'hui un garçon atypique et reconnu du côté du FC Nantes. Très ça peut jouer aussi.
Qui mouille le maillot, qui se bat tout le temps. Moi, je l'ai connu quand il était ici à Bordeaux aussi. C'est des joueurs que les supporters apprécient parce qu'ils sont toujours présents. Sur le terrain, ils font le job. Et ça, c'est des joueurs comme ça, on en a besoin dans le club.
Pierre-Yves, on est d'accord que la tribune Loire est toujours fermée, hein?
Oui.
Ah ouais, tout à fait. Pas de tribune Loire ce soir pour ce match face à Lille. On le disait, infime espoir, on parlera de Lorient dans un instant, mais Damien, infime espoir pour Clermont. Clermont est dernier, si on regarde les différents scénarios possibles. Clermont peut viser au maximum la place de barragiste, et pour que Clermont s'en sorte, en gros, il faut 2 victoires et espérer que Metz fasse 2 défaites, quoi. On en est là,
c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, hein, c'est ce qu'on dit, c'est au pied du Puy-de-Dôme qu'on voit le mieux le sommet du Puy-de-Dôme. Bah voilà, il faut y attaquer, voilà, c'est ça, il n'y a plus le choix pour Clermont. 2 victoires obligatoires, tu l'as dit Benoît, il faudra compter aussi sur un faux pas de Metz, et encore c'est uniquement pour la place de barragiste. Clermont n'a jamais gagné 2 fois d'affilée cette saison, donc ce qu'on leur demande de faire, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant 8 mois. Bon ben voilà, il y aura guichet fermé ce soir face à une équipe lyonnaise, vous en parliez tout à l'heure avec Edouard, qui peut-être un petit peu dans un coin de sa tête la finale de Coupe de France, et des joueurs peut-être un peu sur la retenue. Il y a une infime partie des supporters clermontois, je dirais, qui objectivement y croient, mais bon, sait-on jamais, peut-être que c'est le moment ou jamais de faire cette série de 2 victoires.
C'est la beauté de ce sport, c'est que rien n'est écrit et que tout est possible, quoi.
Souvent la logique est respectée, Tony, c'est-à-dire que quand t'as pas été capable dans la saison de gagner 2 matchs d'affilée, comment tu peux le faire sur les 2 dernières journées, quoi?
Non mais on est d'accord, on est totalement d'accord. Mais tu sais, des instants de folie, tu sais pas pourquoi, à un moment donné, tu gagnes ce match-là, tu commences à rêver et y croire. Et puis il te reste un match à domicile en plus contre Lorient. Donc voilà.
Ce sera à Lorient.
À Lorient, pardon. Excuse-moi. Oui. Ouais. Donc tout est possible. Après, c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué, surtout que Lyon joue aussi une place en Coupe d'Europe. Mais voilà, après faut rester positif.
On l'a dit avec Edouard, mais même si Lyon fait tourner, l'effectif de Lyon est tellement riche que l'équipe sera séduisante sur le papier, quoi. Même si tu mets la Casette, Nuama et Benrahma sur le banc, t'auras en face de toi Cherki, Fofana et Mama Baldé, quoi.
Et puis j'ajouterais, Benoît, que les signaux sont pas très positifs de ce que montre Clermont dans le jeu. Alors il y a eu cette victoire en face à Reims 4-1, qui était un moment historique puisque c'était la première fois que Clermont marquait plus de deux buts au Montpied. Mais en termes de jeu, quand même, la semaine dernière, on a eu encore à Monaco des lacunes assez énormes qui se sont répétées toute la saison, donc on voit pas trop pourquoi ça changerait maintenant. Mais comme le dit Tony, le foot a ça de si particulier que une étincelle, quelque chose peut changer la donne à un moment donné. C'est l'espoir auquel se raccrochent les supporters auvergnats.
Il y a de l'amorosité à Lorient aussi, Pierre-Yves. La série est catastrophique pour les Lorientais. Il y a un déplacement à gérer à Marseille ce soir. Il y a toujours l'envie de briller au Vélodrome pour les joueurs de Ligue 1. Là en plus, Marseille vient de prendre un sacré coup sur la tête avec la claque reçue à Bergame en demi-retour de Ligue Europa. Malgré tout, on n'est pas très optimiste pour les Lorientais quand même, hein.
Bah, j'entends parler d'étincelles pour Damien. J'ai peur que la mèche soit complètement trempée dans l'océan atlantique du côté de l'Orient et que ça s'allume pas, parce que cette série, c'est quand même 2 mois avec un point pris en 9 matchs. J'imagine mal pourquoi ça débuterait au Vélodrome à Marseille, où il faut faire un exploit, aller chercher une victoire. Et cette équipe, je pense qu'elle, c'est surprenant, hein, parce qu'elle s'était bien relancée au mois de janvier, au mois de février, à un moment où on se disait ça y est, c'est bon, ils ont trouvé le rythme avec Régis Lebris, et puis ça s'est complètement éteint derrière. Je crois que c'est râpé, les carottes sont cuites à mon avis pour les Lorientais.
Même s'il y a cet infime espoir de prendre quelque chose au Vélodrome et de se dire
sur une
finale contre un Clermont qui pourrait être relégué en Ligue 2, bon, on ne sait jamais.
C'est là où le foot est magique. Effectivement, ouais. On peut croire à ce scénario, mais quand on regarde ce club depuis quelques semaines, quand on les voit jouer, la pièce tombe toujours du mauvais côté. Et j'ai peur que ça soit encore compliqué. Ouais. Et en plus, dans ce contexte où Marseille, là aussi devant son public, va essayer de prouver que ce qui s'est passé cette semaine, il faut l'effacer vite, aller chercher quelque chose éventuellement. C'est compliqué et ça sera vraiment un accident industriel du côté lorientais.
Huitième budget de Ligue 1, je crois.
Ouais, 85 millions d'euros cette année. Donc voilà, avec des choix forts qui avaient été faits, Benoît, on s'en souvient. Pour soutenir Régis Lebris, qui était en partance l'été dernier.
Bon, mais c'est la différence avec Clermont, qui a le 18e budget de Ligue 1. Mais ça serait plus logique.
Et Brest, qui est le 14e.
Merci, Pierre-Yves. Et j'ai vu que Damien commençait à envoyer des tweets en mode prenons exemple sur Angers, qui rebondit tout de suite, sur Auxerre, qui rebondit tout de suite.
Sur Auxerre, effectivement.
On se projette déjà sur la Ligue 2, pourquoi pas. Merci, Damien. Merci, Pierre-Yves. On vous retrouve ce soir.
À tout à l'heure.
Je rappelle le programme de la Ligue 1 ce soir: Clermont-Lyon, Marseille-Lorient, Montpellier-Monaco, Nantes-Lille, PSG-Toulouse, Rennes-Lens ou encore Strasbourg-Metz. Le point sur le direct avec Julien Alaphilippe qui s'échappe. Johan Bredov, incroyable.
À 9 km de l'arrivée, il est seul en tête. Julien Alaphilippe, désolé Pierre-Yves, Ewan Kostiouna n'a pas pu tenir. Il a été avalé par le peloton, mais voilà l'ex-champion du monde qui fait un numéro dans cette dernière montée non répertoriée. Il reste encore 2 km dans cette montée. Après, ça sera une petite descente et 3 km de plat, mais il est chassé par les Lidl Trek de Jonathan Milan. Julien Alaphilippe qui possède donc 11 secondes d'avance à un petit peu moins de 9 km de l'arrivée.
Et la suite de l'intégrale foot dans un instant. On aura le final de cette 9e étape et pourquoi pas la victoire de Julien Alaphilippe. Ce sera au tour de Flora Moussi. Merci Tony d'avoir été avec moi. Plaisir d'avoir partagé ces 2 heures. On
avec
s'est régalé. On a abordé tous les sujets. Et on a lancé cette grande après-midi qui va nous mener jusqu'au dernier match de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Merci Tony.
Merci à vous.
Et dans un instant, donc, l'intégrale foot se poursuit. Les matchs ce soir, c'est à 21h sur RMC. Bonne soirée à tous. Ciao.